There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Studio 404.
Studio 404.
L'émission de société numérique.
Studio 404, un podcast de qualité présenté par LAN UA.
Et bienvenue sur le Studio 404 du mois de novembre. Je prends une voix extrêmement joyeuse parce que ça va être une spéciale pas joyeuse. En tout cas, je suis avec mes quatre compères, nos deux réals, notre assistante de prod du public, c'est la folie ce soir. Voilà, on est pas mal. Et surtout, je suis aussi avec nos Patreons, parce que je vous rappelle que nos Patreons sont là pour nous aider. Et fidèle que franchement, poste, ça merci. Fait plaisir. Merci et qu'on ne les cite pas assez, je trouve.
C'est vrai.
Voilà. Enfin, je trouve que Fibre trouve. Fibre nous a dit, merci. C'est bien de remercier les Patreons pour gagner plus d'argent. Donc on remercie les Patreons, notamment les petits derniers qui nous ont rejoints, Lisa Melia, Kevin Boyer, Tom, Alexandre Carlian, Hélène, notre recordman du moment, Tom Priest, Stéphanie Desby, Thomas Lejouan, Marion Saul, Valentin Dupont, Étienne Amaral, Finiarel 01, Flavien Maubouche et Marla. Voilà, ils font partie de la petite troupe de chouettes auditeurs qui ont rejoint la communauté des Patreons et qui nous soutiennent. Ça fait très plaisir.
Merci enfin, à
qui
vous.
Soutiennent 404, mais aussi Trajectoire. Et c'est cool, c'est quoi? Et le log.
Et ouais. Le log.
C'est sûr. Pas mal.
Tout à fait. On fait des gros bisous.
Merci oui. À tous.
Voilà.
Merci.
Et à toutes.
D'ailleurs, c'est presque mix en termes de répartition homme-femme. Je suis plutôt content.
C'est pas mal.
Ouais. Il y a que des blancs, mais bon, ça, c'est pas grave. Mais en tout cas,
t'as vérifié.
On a attaqué du renard de
bonheur. J'ai écouté les noms.
T'as écouté les noms.
Comment ça, t'as écouté les noms? C'est des noms de blancs.
Ça commence bien cette émission.
Bien sûr. Bah attends, c'est connu ça.
Genre
Flavien.
Genre Tom. Tu veux savoir s'il est blanc ou
Flavien Maubouche.
Voilà.
Étienne Amaral.
Voilà.
Bah pourquoi? Il y a bien des Renois qui s'appellent Étienne.
Tu t'appelles David Amaral.
Oui, c'est vrai, mais dis pas mon nom, toi, je suis undercover.
Il y a un mec qui s'appelle Tom.
Ouais, Tom, ouais,
mais personne prendrait
Tom
ce pseudo s'il n'était pas blanc.
En 42 d'Az, il mesurait la forme des crânes, tu sais.
Ah, oh, lui, dis donc, ah, mais qu'est-ce que c'est qui s'approche?
Là, c'est bien, l'émission c'est débute à peine. Le petit point Godwin, le petit point raciste.
Remarquez, c'est
30
pas mal,
secondes.
On voulait après commencer la morphologie, par quelque chose l'étude
des prénoms.
Notez que c'est parti d'un bon sentiment. Je disais que j'étais content d'avoir
bon
une mixité homme-femme
que tu as battu en plein vol, tel un chasseur en voyant de colombe.
C'est vrai aussi. Ouais.
Alors, l'introduction est un petit peu chaotique, mais ça fait comme une heure et demie qu'on est là et qu'on se dit qu'il faudrait enregistrer l'émission. Voilà. Et Ghislain, il en peut plus, il pleure parce que c'est vraiment c'est très chaotique. Cette
d'ailleurs,
émission.
C'est sûr, si on avait enregistré depuis le début qu'on est ensemble, on aurait fait un épisode de ZQSD. Et voilà.
Ça va, t'as d'autres trucs sur lesquels tirer
des cartouches. Non, mais bon, là, pour l'instant, ça va. Mais je les aime bien, ZQSD.
Garde quelques
je les aime bien.
En fait, l'excuse d'As, c'est toujours pareil, c'est de dire quelle bande de connards de mongolos. Mais je les aime bien. Comme ça, après, ils sont inattaquables, mec. Ils pensent que personne ne voit son petit manège.
Personne.
Ah, je te jure.
Je les aime vraiment bien.
5 minutes d'émission, D'As a plus de munitions.
Oh, t'inquiète.
Malheureusement. C'est pas vrai.
Mon coco.
C'est un homme, il se retourne, il y a une caisse de munitions, toujours.
Je joue en easy à chaque fois, exprès pour ça. Oui.
Quoi d'autre? On va évidemment ne pas débriefer du camp numéro 2. Puisque
d'ailleurs, on ne sait pas de quoi vous parlez.
Certains d'entre nous reviennent du camp numéro 2 à la montagne, dans les Pyrénées. Que s'est-il passé?
C'était fantastique quand même, on peut le dire.
Officiellement, c'était fantastique, après on
ne saura jamais la vérité.
On peut parler
des massages, des jumelles.
Ouais, les petits massages sur les matelas dans la salle commune, c'était pas mal.
Peut-être. Bon, ne
Fibre,
pas.
Il est revenu, ça fait. À chaque fois qu'on le voit, il nous en parle quand même.
J'ai hâte du 3.
Ça l'a marqué.
C'est sa secte à lui.
Voilà. Donc voilà, officiellement, il s'est passé des choses au camp. C'était très chouette. On prépare un camp 3. On rêve d'un camp 3, en tout cas. On vous rappelle, ce sont nos week-ends 100% déconnectés, sans technologie, sans heures, sans rien du tout, à juste du fun, des gens et des massages. Des massages collectifs, bien sûr. À part ça, Fibre, comment ça va? À part ce camp 3 qui t'a fait beaucoup de bien, apparemment.
Oui, je vais bien. Vous avez entendu ma voix. Alors là, il y a le croisement entre le camp, la neige, les ours et la méditation. Et je suis devenu quelqu'un d'apaisé, de tranquille.
Parce qu'il y a eu des ours au camp.
Bien sûr.
Ou peut-être pas, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des ours. On ne sait pas du tout.
Connaissant Fibre Tigre, enfin bon, bref.
Daz, comment ça va par côté t'es une pourriture.
Ben, ça va très bien, ça va très très bien. Je dis bonjour à tout le monde, aux filles et aux garçons. Je dis bonjour à tous les podcasts de la scène indépendante française. Je suis content d'être là avec vous. Oui, monsieur, parfait.
Ça, tu vois, ça, il s'en sert comme caution à chaque fois pour dire, mais tu vois, j'étais gentil à un moment. Et il repasse ce genre de moment en boucle.
Il t'envoie l'extrait.
Clippez-moi ça, comme on dirait sur Twitch. Sylvain, comment vas-tu?
Ça va bien.
Ouais.
Ouais.
Bon, ben voilà.
Voilà, c'est bon. On passe de temps.
Attends, je croyais que t'allais me dire, bah écoute, j'étais en freelance sur un bureau nomade digital entre tel pays et tel machin.
Non, il était dans un train.
J'en ai profité pour faire Backpackers
en
reco.
J'ai fait beaucoup de digital nomadisme entre Le Havre, Lyon. Et Paris, c'était excitant. Et
c'est la France.
Et vraiment, je peux. Article à venir.
Je trouve qu'en une phrase, il a été plus dur avec la province que moi en 10 ans de métier.
Oh, n'importe quoi.
C'est vrai quand même.
Attends, n'importe quoi, il a inclus Paris. Oui, le problème de Paris.
Oui, mais il avait une intonation, Le Havre, tu vois. C'était vraiment.
C'était plus de la petite hésitation avant Le Havre.
Ouais, mais en fait, c'est étrange parce que moi, je suis un freelance schlag un peu. Donc, je me retrouve souvent dans des bars un peu chelous. Et là, vraiment.
Un freelance quoi?
Schlag.
Ah, schlag.
Ouais. C'est les gens qui achètent digital des sacs de Schlagraven, Freskalgen.
Et je me suis retrouvé dans une sorte de PMU, mais vraiment hyper dark.
Ah, t'as fait ta déclaration d'impôt là-bas?
Ouais, ou que des. Là, c'était plutôt, tu vois, rencontre d'ex-tolar du Havre.
Non, mais fait genre pour être un peu roots. Mais...
Ouais, franchement, je suis resté une demi-heure.
Je pense qu'au Havre, il y a aussi des trucs de coworking.
Non, mais je pense qu'il s'invente une vie.
J'étais pas dans le bon quartier.
Il s'invente une vie.
Il était sur Le Havre.
Il était dans le quartier de la gare, tu vois.
On était du mauvais côté en fait.
Du mauvais côté, c'est genre.
Donc on était.
Rappelons que Le Havre, ville d'Edouard Philippe.
Ah ouais,
notre premier ministre.
Non, mais on était vers la gare dans un bar glauque.
On était du mauvais côté. Ce sont des mecs qui étaient Rio de Janeiro et qui allaient se faire trouver d'un coup dans le favela. Ah là là.
Non, mais je vous raconterai l'anecdote en off. J'ai failli perdre plusieurs doigts. Voilà.
Ah ouais.
Non, là, je rigole.
Putain, j'ai failli y croire.
Ça, c'est pas vrai.
Des paris stupides avec des gens dangereux.
Vous ne connaissez pas encore le thème de l'émission, mais quand vous verrez qu'il y a un lien avec Le Havre.
Ouh là 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 là. Putain, mais à chaque fois on se fait des ennemis, là ça va être les Havrais, quoi. Vous êtes relou.
Arrêtez.
Quel est le rapport en fait? Parce que je crois connaître le thème et j'ai.
On dit rien.
On verra.
Mélissa, comment vas-tu?
Ça va, nouvelle vie d'entrepreneur, c'est chaud.
Ah oui, alors Mélissa, depuis qu'elle nous a quittés,
elle brasse les millions.
Ça fait du séminaire podcast. Alors, oui, je dois partir, mais vraiment c'est pour le cœur. Deux secondes après, oui, alors on fait une tournée à New York de toutes les startups. Alors on est chez BuzzFeed. Là on est chez plus cool.
Chez le New Yorker. Bah, alors, dites-moi,
franchement, l'Amérique ça fait rêver, j'avoue. Mais franchement, nos chiffres de 404 sont des bons chiffres, sachez-le. Même
allez.
À côté du marché américain.
Allez.
Vous entendez les sponsors?
Donc ça fait assez rêver de se dire ok, on n'est pas ridicule à côté du marché américain.
Quand est-ce que tu lances ta boîte dont on ne connaît pas le nom, dont on ne doit pas dire le nom, je ne sais pas. Quand est-ce que ça se lance cette
boîte
de podcast?
C'est début 2018.
Début 2018.
C'est vaste, mais okay, c'est début 2018.
Bon, et qui seront vos concurrents les plus directs?
Alors, pas qualité, clairement, vu que nous sommes tous amis. Mais après, il y a d'autres gens, mais on n'est pas concurrents, parce que l'idée, c'est quand même de faire progresser les podcasts en France.
Ah, tu veux dire que quand la marée monte, elle monte pour tous les bateaux?
Mais voilà.
Ah ouais, d'accord.
Non, super. Mais franchement, les mecs, on adore tellement les podcasts, ça vraiment, faut juste que les gens ils en fassent et que les gens en écoutent.
Non, mais il peut se passer deux choses. Soit elle se plante et elle revient vers nous comme le fils prodigue et on l'accueillera avec amour.
Mais je suis toujours là, fille, putain.
Oui, bien sûr. Soit elle réussit.
Quel enfoiré.
Et sa réussite va ruisseler sur nous comme les actionnaires macronistes.
Non, mais c'est vrai. Le ruissellement
de réussite, super. C'est quelque chose
le
qui
le ruissellement rêver, des audiences des podcasts.
Ça va être super, moi je le dis.
Donc, que des belles choses du coup, non?
Bah ouais, grand projet.
Il y a des recos ou pas?
Ouais, des recos.
Ah, des recos.
Allez, alors des recos, ça veut dire que Daz a une reco.
Oui.
Que tu réclames les recos.
Tout à fait. J'ai une reco qui m'a personnellement flabbergasté.
Oui.
Ça m'a soufflé, c'est Google Earth.
Mais
en VR.
J'ai l'impression que c'est tellement un truc de 2014.
Grave.
Google Earth VR, genre. Incroyable.
la démo de l'Oculus.
Franchement, je l'ai lancé sans trop y croire et avec les derniers casques Windows.
Mais attends, du coup, c'est pas sorti hier.
Les casques Windows, qu'est-ce que tu entends par casque Windows?
Les casques Windows Mixed Reality, les concurrents de Oculus.
L'HoloLens?
Non. Ah. Enfin, oui, ça fait partie de l'offre, mais l'HoloLens, c'est pas dispo encore. Là, c'est des casques de VR.
D'accord.
Et donc, c'est très convaincant avec des bons casques. Voilà,
d'accord. Mais tu te balades au-dessus de la Terre? Parce que moi,
oui,
je t'ai coupé.
Tu te promènes au-dessus de la Terre.
Il y a des questions que je me pose sur Daz là depuis ces photos de cartes graphiques à 1000 euros, de tests.
1300 euros, tu veux dire.
Est-ce que tu es influenceur techno-numérique?
Absolument pas, car je ne prends que les photos, je n'ai pas les produits. C'est l'étape d'après dans mon plan qui devrait normalement se dévoiler d'ici 10 ou 20 ans.
D'accord, voilà. C'est un projet à long terme.
Mais oui, effectivement, on est amené à côtoyer du beau matos. Hein.
Oui.
Voilà. Tant qu'il n'est pas sponsor par cet élève.
Par
cet élève.
Ça tacle à la gorge.
Qu'est-ce qu'il y a? On évite le bad buzz, nous.
Ça tacle à la double gorge. Oui, c'est vrai. Quoique, si cet LM nous sponsorisait, je pense que tu serais d'accord pour venir.
Ah bah moi, quand je reviens du HP Spectre, alors.
Il arriverait le premier habillé avec des feuilles vertes partout sur le dos.
Bien sûr.
Moi, c'est tellement. Quand tu veux, cet LM. Hein.
Tellement.
Faudrait qu'il change de nom, peut-être, parce que c'est un peu claqué, mais sinon. Non, mais s'il se réinvente avec un nom en EO, je pense qu'on les prend direct.
C'est Téléméo.
Crédit consomméo.
Donc Marocco, hein, Google Earth en VR et les casques Windows, achetez-les.
Et
c'est
un
cher.
Crédit consommation pour payer tout ça, parce que c'est bonbon quand même, hein, ton PC. Ton
250 casque. Euros le casque.
Hein. Oui, mais PC qui va derrière.
Ok.
Voilà. Qui a d'autre? Une petite reco, Mélisse.
J'ai une reco livre.
Ah, c'est pas. Mais qu'est-ce que c'est?
C'est le livre de Titu Lecoq. Alors là, vous vous dites, je suis groupie, machin. Non. Ce livre est vraiment ouf. Il s'appelle Libéré.
Délivré.
Non.
Comment le féminisme.
Attends, j'ai même plus le sous-titre. Mais bref, il est super bien.
Se gagne devant
devant le panier à linge sale. Bravo, l'âme.
Mais je l'ai acheté sur Kingdom.
Devant quoi?
Voilà.
Devant le panier à linge sale. En fait, ça parle du comment les meufs sont habituées, enfin, sont pas habituées, mais sont presque formées par défaut à faire le ménage, genre à ranger. Et de là, elles tirent toute une analyse féministe qui est hyper.
Charge mentale, charge cognitive, tout ça. Ouais.
Mais vraiment. Très bien écrit, très facile à lire, super. Enfin, vraiment, c'est libérateur, donc je le conseille à tous les.
Je sens de la condescendance, Sylvain.
Non, pas du tout.
Non, mais vraiment, en plus, à tous les mecs, parce que je pense que déjà, les meufs réalisent des trucs, mais alors, du coup, les mecs vont réaliser énormément de choses, et en plus, c'est vraiment facile et cool à lire, quoi, et intéressant.
Bah, elle écrit bien, tu vois.
Bah, en fait, son livre, pour le coup, j'ai lu, t'as l'impression de lire un très long post de blog de son blog, donc c'est génial à lire.
C'est vraiment cool.
Et voilà, évidemment, je vous conseille de l'offrir à vos proches, ou à Bastien Vives, je ne sais pas.
Qui fait partie de nos proches.
Et Das, pour te contredire, étant freelance à domicile.
Ouh. Alors attention.
Le ménage et voilà. La lessive, c'est pour ma gueule.
Alors, je vais t'apprendre un truc. Étant pas freelance et pas à domicile, c'est aussi pour ma gueule, parce que je suis pas un connard qui a besoin d'être freelance pour faire le ménage.
La question, c'est est-ce que ta femme doit te le rappeler ou pas? Est-ce que tu le fais de toi-même?
Ouais. Non, je le fais de moi-même, parce que ma femme est
bien dressée.
Que WAM. Voilà. Non, si je veux que ça soit bien fait, il faut que je le fasse moi-même.
Bon, le livre de Titu Lecoq, Libéré. Je crois que la bataille du féminisme se gagne devant
le panier à linge
sale. C'est long comme titre.
Sylvain, petite reco.
Oui, alors puisque Mélissa prend les livres, je prends les séries pour ce mois-ci. Mm-hmm. Et je vous conseille une série un petit peu de digger, quoi. Il faut la trouver.
Une série de digger.
En VO, elle est en allemand.
Stranger Things 2.
Ah. Donc c'est chaud de trouver les sous-titres. Ça vient d'être acheté par Netflix US, mais ce ne sera pas diffusé avant 2018. Bref. Une série un petit peu cool et pas encore trop connue qui s'appelle Babylon Berlin.
Okay.
Et ça se passe, c'est adapté d'un polar qui se passe dans l'entre-deux-guerres à Berlin sur une enquête un petit peu sulfureuse qui implique le docteur Adenauer et du bondage et du SM. Voilà. Ouh. Je vous en dis pas plus, mais c'est très bien filmé.
Ça partait mal, mais ça
fait très noir. Et pour une fois qu'on peut mater une série qui n'est ni du Royaume-Uni ni des USA. Ça fait plaisir d'avoir une série allemande.
Vive l'Europe!
Ouais.
Vive l'Europe. Pourquoi pas?
Et je pense que vous allez en entendre parler, ne vous inquiétez pas pour ça.
On peut dire ça maintenant que l'Angleterre est en train de se casser de l'Europe.
Mais oui.
Ha! Fibre, est-ce que tu as une reco culturelle?
Fidèle à moi-même, je vais suggérer un de mes projets.
Ma reco culturelle, c'est moi. Oh, le mec!
Ah, c'est moi, je peux m'arrêter là.
J'ai remarqué que vous étiez nombreux à vous être désabonné de mon compte Twitter. Donc...
Non, alors non, je vais tenter. Non, ça concerne les auditeurs de qualité. Je vais tenter un podcast comme le fait l'âme avec le log. Donc un petit peu d'une seule traite, sans trop de production. En direct sur Twitch, qui sera sur les projets abandonnés. Voilà. Et je vais probablement enregistrer le premier avant la, la publication du 404. Donc, vous, voilà, vous l'apprendrez un petit peu en retard. Mais voilà.
Est-ce qu'il a un nom ? Est-ce que tu vas faire une bounoise ? Il va me dire, je ne vous dirai rien, vous le lirez par voie de presse.
Moi, au contraire, je suis l'anti-Mélissa dans la mesure où je dis les choses avant même qu'elles se réalisent. Et parfois, elles ne se réalisent jamais. Donc, c'est pour ça. Donc, ça va probablement s'appeler Projet abandonné.
Ah bah écoute, c'est plutôt bien trouvé.
Est-ce que ça s'appelle Ohé Ohé Projet abandonné?
J'ai une idée de générique là, tu vois, tu me donnes.
Et Fibre, est-ce que ça concerne tes projets ou genre ceux de Kickstarter, genre un cimetière de Kickstarter?
Je vais commencer par mes projets parce qu'en fait l'idée c'est de parler de à quel moment un projet échoue et aussi quel héritage il peut donner, puisque voilà. Donc je les connais bien les miens, ceux qui ont échoué, j'en ai beaucoup qui ont échoué, et puis mais après si ça s'il y a des gens qui veulent participer parler de leur projet à eux, ils seront les bienvenus.
Ah donc ça sera un truc ouvert au ça sera pas du tout seul au micro
au début, je serai tout seul au micro, mais après si quelqu'un veut me raconter son histoire, je la re-raconterai ou je la
il est bien intéressant micro,
donc là aujourd'hui en recommandation tu as choisi de recommander ton projet qui va parler de tes projets
abandonnés.
C'est fractal.
C'est une belle fibre tigre. Bravo.
Et oui, voilà.
C'est méta tigre même.
Digne de vie. Bon, on rigole beaucoup.
Ouais.
Mais on va moins rire.
On va moins rire.
On va moins rire. Puisque, comme promis à certains auditeurs particulièrement attentifs, on va parler du Havre pendant l'émission entière. Non, je déconne.
J'aimerais trop.
Je déconne. C'est pas une émission spéciale de Havre. Mais certains d'entre vous le savent, ça fait longtemps qu'on veut s'attaquer à la thématique de la mort. La mort avec un grand M, au sens large du terme, enfin au sens large numérique du terme, puisqu'évidemment, nous n'allons pas vous vendre un accès pour quelconque paradis ou purgatoire. Nous allons parler de la mort et du numérique. Et pour cela, évidemment, nos quatre chroniqueurs, dont deux qui vont bosser en tandem, vont vous parler de différentes facettes de la mort. On a bien rigolé, évidemment, pour parler de ça.
C'est pas terminé, je pense.
C'est pas terminé. C'est-à-dire, c'est une émission qu'on appellera d'autres.
Mais il y a beaucoup d'enterrements qui sont joyeux, hein.
Mais ça, c'est vrai.
Oui, les enterrements de gitans, par exemple.
Non.
Mais si, c'est vrai.
Non, mais c'est vrai.
Ils se déboîtent la gueule.
Nos amis gitans, on n'en parle pas, ça.
Non, mais c'est vrai que les enterrements, après la cérémonie qui est un peu tristoune, en général, tu bouffes et t'es content.
Ouais, c'est vrai. Tu bois, en fait, surtout, en fait, non?
Et puis, moi, on se retrouve, la famille se retrouve d'une certaine façon. Ouais. On se voit jamais.
Bon, ben voilà, c'est la fin de cette émission.
On a réglé le débat.
La mort, c'est cool.
La mort, c'est cool parce que tu bouffes.
On se partage l'héritage.
Et tu chantes des chansons.
Et tu boules des caravanes.
Daz, tu commences à devenir influent, Daz. Dès que tu donnes de la bouffe gratos, Daz, il fait bah.
Ah, écoute, moi, vous connaissez, je suis le renard des buffets. Oui.
D'ailleurs, on a chopé une petite grand-mère, apparemment anglaise, là, il n'y a pas longtemps, qui squattait tous les buffets d'enterrement et qui venait avec un tupperware et qui bouffait à tous les râteliers et qui récupérait de la bouffe pour elle.
Ben ça, c'est un plan.
C'était ignoble.
Ça, c'est un plan de grave.
C'était dégueulasse. Bon, en tout cas, on va vous parler de la mort sous différentes coutures, notamment, évidemment, sous l'angle du numérique. Et pour cela, et pour commencer tranquillement et dans la joie et la bonne humeur, c'est Fibre Tigre qui va nous partager son testament.
Sujet numéro 1.
Dématérialisé, mais toujours aussi lourd à gérer. Voici le nouveau testament.
À qui de droit ? Lorsqu'on allume le Slack de 404, une citation motivante apparaît. Ma citation. Je me lève tous les jours, préparé à mourir. Je suis préparé à mourir. Voici mes dernières volontés. Mourir, c'est avoir vécu. J'ai embrassé la société de l'accès plutôt que la société de propriété, consommant mes appartements et mes véhicules comme je consommais mes chansons Spotify. Rien ne m'a jamais vraiment appartenu. Je me suis dit qu'en possédant moins, j'en laissais plus aux autres, et alors que la mort vient, je n'ai pas de regrets. Je n'ai presque rien de matériel. Je lègue mes accès Spotify et Netflix à des associations d'étudiants. Les gars, kiffaient la légalité à un âge où j'étais obligé de pirater. Je ne peux pas léguer mes jeux vidéo parce que mon compte Steam, on ne peut pas donner ces jeux Steam. Ils nous appartiennent, ils sont sur un compte. Donc, je les ajoute en compte Family sur une association jeux vidéo à l'hôpital et ces gens pourront bénéficier de ma collection.
Quel symptôme.
Je suis obligé de payer encore un an la fibre à cause de mon contrat. Du coup, j'ai mis un routeur Wi-Fi ouvert. Si vous passez aux arènes de Lutèce, le réseau est Rest in Peace Fibre, qui fait bien. Il me reste toutes mes productions dématérialisées. Que produit un homme dans sa vie? Bon, moi, je produis beaucoup. En ce qui me concerne, c'est un peu plus de 500 000 mots par an, donc je concatène mon ex-Facebook, Twitter, mail, document Word. Un peu plus de 1000 photos par an, donc ça, c'est tous les réseaux sociaux, et 150 vidéos par an sur Insta, YouTube, Twitch. Je ne prends pas à Snap, qui normalement, espérons, efface bien les vidéos. On n'en est pas encore sûr.
On les dit ou pas ?
On les attend.
On les dit.
Que faire de tout ça, de cette masse de données ? J'ai en gros deux options. Transmettre ou effacer. Ou, comme le disait Shakespeare, être ou ne pas être. Telle est la question.
Citation pointue.
Random.com.
Imaginons que je choisisse d'être, c'est-à-dire de transmettre. Donc une partie pessimiste de moi me dit « Mais qui va s'intéresser à ma vie? Qui va regarder mes photos? Ne vit-on pas dans une société de l'instant ?» Tout ça, c'est un sujet que j'ai développé, mais c'était hors sujet, donc ce sera Mélissa qui va le développer. Et là, m'a dit « Tu enlèves ça okay !» Donc, on en parlera plus tard.
Les dessous des chroniques.
Et oui, comme ça, vous avez le making of, la méta-chronique.
C'est un testament, mec. Hein. Ouais. On va te rappeler.
Je ne sais pas si vous savez, mais les Mormons, donc c'est une religion, les Mormons, ils recherchent les arbres généalogiques de tout le monde, de tous les gens de toute la planète, à leur insu, pour les baptiser. C'est-à-dire qu'ils ont vos arbres généalogiques à vous, et ils vous baptisent ou baptisent vos ancêtres, parce que comme ça, vous accéderez au paradis selon eux. Ils ont mis tout sur microfilm, dans une immense montagne au nord de Las Vegas.
Est-ce vrai ?
On ne saura jamais si c'est vrai ou pas.
C'est complètement vrai. C'est une belle histoire. C'est financé par Las Vegas. Ne peut-on pas imaginer que des mormons laïcs du futur créent un Wikipédia des humbles qui ne raconterait pas la biographie de gens très importants comme les Balkany ou Jean-Pascal de la Starac, mais la bio de tout le monde, la bio de votre boulanger, de votre facteur, de la petite vieille du troisième, la bio de Daz, bio qu'on récupérerait dans la synthèse des infos des réseaux sociaux laissées à notre mort. Je sais aussi, et Daz en parlera, que l'ensemble de ces données peuvent aider à créer via une IA Deep Learning un clone chatbot de ma façon de m'exprimer qui me survivra. Si cela se trouve, il sera meilleur que moi. De même que l'image de Marilyn Monroe ou de Carrie Fisher sera plus brillante actrice que les originales. Et ces images travailleront à vie pour Disney. Enfin, à vie pour l'éternité plutôt.
On vous rappelle que c'est un testament à la base.
Je reprends mon testament.
À l'article de la mort, je fais une chronique.
Pour l'avoir longtemps embrassé, je sais que le capitalisme construit des paradis pour mieux y implanter des enfers.
Oh, c'est beau.
Le capitalisme fabrique des écoles de musique et des studios et un jour produit la plus belle chanson du monde qui va transformer votre vie. Puis il prend cette chanson et il la met dans une pub pour du Red Bull qui vous tuera ou tuera vos enfants. C'est un testament qui sera lu par mes enfants, donc je veux leur apprendre des trucs.
Mais surtout, il a l'article de la mort, il est plus vraiment sain d'esprit.
Je sais que les données qui me survivront, photos, chatbots, seront exploitées commercialement. Faut bien payer le cloud, ma petite dame. Et c'est le cas aujourd'hui, où mes photos sur Instagram sont entrecoupées de pubs Riviera détente, bordel. Alors demain quoi, Michel et Augustin, Monsanto, la société de podcast de Mélissa, mais ça me ferait bien mal au cul. Mon conseil, effacez tout. Tel un pharaon, faites-vous enterrer avec votre disque dur, on n'en parle plus. Un jour, Neil Armstrong est mort, c'était un samedi. À midi, plus personne n'en parlait. On ne pleurera pas votre disparition, sauf si y a matière à s'indigner ou à faire un bon jeu de mots. Alors, tu as rendu l'âme? Je vais vous arracher. Je vous vois. Vous voulez arracher ces dernières volontés au notaire en disant que je suis fou, qu'il faudrait au moins garder une photo ou une vidéo de moi comme on garde la photo de grand-papa. D'ailleurs, juste une question. Vous la regardez souvent, la photo de grand-papa? Ne vous inquiétez pas. Si j'ai prise, c'est-à-dire j'ai contrôle sur tout ce que j'ai produit et dont je veux la destruction ce soir, je n'ai pas prise sur vos photos de moi, les photos de moi prises par des tiers. Et puis quand viendra votre jour de faire votre testament, quand viendra ce jour pour vos descendants, devront-ils gérer les terabytes de données de leur vie et aussi celles de leurs aïeux ? Mourrez comme vous avez vécu dans le présent sans jamais remonter votre flux Instagram ou Twitter à plus de 24 heures. Je ne veux pas, chers descendants, que mon héritage numérique ou ceux de mes contemporains servent à votre quête future des origines. Tournez-vous vers le futur, c'est là que sont les choses les plus merveilleuses et les plus dangereuses et elles requièrent toute votre attention. Cela dit, je lègue mes métadonnées à la science. Je les déverse dans le grand tout de vos bases de données en espérant qu'elles vous aident à mieux cerner les terroristes, les capitalistes, les dépressifs. Merci d'envoyer une lettre recommandée à Google pour lui demander d'effacer l'ensemble de mes données qui sont sur un cloud, mon historique Chrome. Je n'ai rien à cacher, mais maintenant à l'article de la mort, je me dis que peut-être. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite remarque. Vous m'avez dit souvent, dans ma vie, tu vends ton âme à Google. Eh bien, au moins, j'ai vendu mon âme à un seul démon. Et je n'ai pas à m'épuiser à aussi demander à Apple, Facebook ou autres de nettoyer par le vide derrière moi. Pour finir, je vais citer un grand homme, Sylvain Palais, qui a dit « Il n'y a pas de différence entre la vie réelle et Internet. » Eh bien, c'est avec le même sentiment que je quitterai les deux de front, de la gratitude pour tout ce qu'ils m'ont apporté.
R.I.P. Fibre Tigre.
R.I.P. Fibre Tigre. On vous rappelle le SSID du Wi-Fi ouvert aux arènes de Lutèce. un testament classique.
Oui.
Tout ce qu'il y a de plus classique.
Donc on a Edyafi, bah tu fais un testament où tu lègues ceci, cela, ta tante, ta famille, qui récupère quoi?
En vrai, je ferais un vrai testament gamifié, je pense, avec une carte au trésor.
Tu vas faire un testament gamifié?
Oui, genre, si vous faites le tour du monde avec 5 dollars, vous avez toute ma fortune, quoi. Voilà.
Ah ouais?
C'est le notaire qui va être content. De
je sais pas par où commencer sur ce que Fibre a dit.
Il y a trop d'éléments.
Peut-être sur sa chronique intégrée dans son testament, peut-être. Sa critique acerbe du capitalisme.
Sur ce moment où il se réjouissait qu'on pourra travailler à vie grâce à nos doubles hologrammes, ou au moment où il dénonçait le capitalisme lui-même. Je ne sais pas à quel nom je...
Ce paradoxe.
À quel nom je prends. Bon, Fibre a fait un testament pour expliquer que même si aujourd'hui, comme tu dis, on possède moins, on a dématérialisé énormément de choses, on a des possessions. Qui sont des possessions dématérialisées, mais quand même des comptes, des clouds, des jeux, du contenu, tout ce que vous voulez. Et qu'à un moment, tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ça n'a plus aucune valeur parce que ce n'est pas matériel? Est-ce qu'on le lègue à des gens? Est-ce qu'on transmet des choses? Est-ce qu'on devrait mourir comme on efface un fichier texte une fois qu'on ne l'utilise plus? C'est un peu, c'est un peu
ça. Je pense qu'on pourrait commencer par demander aux chroniqueurs qui... Enfin, est-ce qu'ils feront quelque chose de leur disque dur plus tard? Parce que personnellement, je ne collectionne pas les photos comme toi.
Ouais.
Mais est-ce qu'il y a des gens qui collectionnent les terabytes de photos de leur vie? Non.
Moi, j'ai pas des terabytes, mais j'ai des photos.
Mais alors, du coup, mais ça, t'as des
que
photos.
Que je veux garder.
Mais que,
pas que tu veux garder, garder dans la que, genre, tu veux garder. Je veux que mes descendants, pardon. Eh. Mais en fait, ça se trouve, ils en foutront, ils les brûleront. Après, ils en feront ce qu'ils veulent.
Mais du coup, tu veux quand même léguer des choses aujourd'hui?
Ouais.
Non, mais
je me dis que ça, franchement, quand j'écoutais ton truc de effacer tout, je me disais, ouais, grave, faut faire ça. Mais en fait, non. Parce qu'en fait, on se dit, c'est les comptes réseaux sociaux, là, on pense tout de suite aux trucs qu'on fait tous les jours. Mais plus que ça, mon disque dur avec tout mon travail et tous mes trucs, j'ai envie que ça survive. En fait, je ferais quand même un petit nettoyage.
Ouais.
Mais je rangerais ça, tout prévois, ça très bien.
Tu prévois ta mort quand même, parce que des fois, la mort, elle ne te prévient pas.
Hein. Je sais. Et vraiment, cette émission m'a fait prendre conscience que je devrais peut-être commencer à préparer.
Mais imagine,
dès maintenant.
Imagine
à mettre
que...
mes affaires en ordre. Aussi.
C'est ça.
Imagine que...
Ah, quelle émission de la dépression.
Imagine que certaines de tes photos aillent dans un stock photo partiellement géré par Microsoft parce que ça paye les droits du cloud, par exemple, et que tu te retrouves en fond d'écran d'un site web de Balkany. Parce que ils ont acheté les photos.
C'est
fabrication d'hypothèses.
Moi, je veux que la partie privée reste.
Aujourd'hui, il y a des enfants qui se déchirent parce qu'il faut gérer la concession du grand-père ou les soins ou l'enterrement ou ce que vous voulez. Il y a des frais. Et à un moment, qu'est-ce que tu fais quand tu fais hériter à des gens de toute ta vie sur le cloud, mais sur les services? Est-ce que ces gens disent, en fait, maintenant, je vais devoir me taper 20 euros par mois en plus pour gérer ça?
Ben voilà, justement. En fait, à partir du moment où c'est un abonnement que tu payes, à partir du moment où la personne, l'ayant droit, ne paye plus, enfin, la personne qui en a la jouissance arrête de payer, ben ça s'arrête. Voilà.
Donc, en fait, ce qu'on vient à dire, c'est qu'on ne peut rien léguer parce que rien ne nous appartient.
Ben, moi, c'est ce que j'aurais dit depuis le départ, et du coup, ça aurait tué sa chronique au bout d'une minute. Hein, mais
c'est ce que disait un peu Fibre au début de sa chronique, c'est qu'en fait, il ne possède rien, il est dans l'économie de l'accès.
Oui, et en fait, quand il dit, par exemple, qu'il lègue son compte Spotify.
Oui.
C'est-à-dire que implicitement, il accepte de continuer à le payer après sa mort. Sinon, il lègue rien du tout. En fait, dès que t'arrêtes de payer, t'as plus Spotify.
Bah, je lègue les quelques mois qui me restent.
La playlist de comptabilité.
Merci, grand papa.
Cela étant, c'est pas bête ce que dit Sylvain, parce que quand tu fabriques une playlist, tu fais une œuvre de curation qui peut être précieuse. Et donc, peut-être que les gens,
tu ne lègues pas que des abonnements et des accès, tu lègues des choses que tu as créées, des documents dans Drive ou des playlists.
Ont-ils de la valeur,
quoi. Voire de la musique que tu as créée sur SoundCloud ou ce que tu veux. Donc, il y a deux choses. Il y a l'économie de l'accès, puisqu'on n'est plus dans l'économie de la propriété qui change beaucoup de choses dans l'héritage. Et ensuite, ce que toi, tu as créé, que quelqu'un va devoir gérer ou hériter, un peu comme on disait, l'appartement de papy, je revends tout et je garde l'armoire normande qui est stylée. Mais, mais déjà, il faut juste qu'on règle l'histoire de l'économie de l'accès. Parce qu'en gros, effectivement, si un jour Spotify, ton abonnement s'arrête, tu ne lègues plus, rien.
Disparaît. Et même ton profil utilisateur, je pense, n'est plus... Ah si, peut-être que tu passes en utilisateur gratuit et du coup, tes playlists sont peut-être encore accessibles.
Tu gardes tes playlists.
Ouais, ok.
Ah oui, donc tu as toujours les playlists, mais pas
les playlists, ouais.
Mais alors, d'autres choses où tu as un accès, tu dois payer pour avoir un accès.
Google Drive, c'est pareil.
Ouais.
En fait,
Dropbox,
tu perds certains privilèges. La majorité des services qu'on utilise aujourd'hui sont en freemium. Donc tu perds tes privilèges de certaines fonctionnalités, mais tu as toujours ton compte, tu as toujours les documents que tu as créés, que ce soit des playlists, que ce soit des choses comme ça.
Ouais, c'est vrai que Drive,
donc
c'est
il faut quand même léguer des mots de passe de ta
qu'est-ce
Dropbox.
Qu'est-ce qui se passe de ta Dropbox, par exemple?
La Dropbox, elle reste accessible.
Non, mais imagine que si tu payes plus d'abonnement. Et sur ton 1 Tera est presque 5 gigas.
Tu l'as en lecture seule.
D'accord.
Et imaginons une Dropbox cryptée, par exemple. Qu'est-ce qui se passe?
Tu veux dire chiffré, certainement.
Oui, chiffré.
Mm-hmm. Digital.
Est-ce que les gens l'effacent au bout d'un moment ou est-ce qu'il y a une responsabilité de conserver
Non, mais déjà, est-ce qu'il y a déjà des... Est-ce qu'on peut déjà léguer ça, en fait? Ça se fait maintenant de léguer ça ou pas?
Bah, si tu as les mots de passe, si tu as le compte et le mot de passe, oui.
Parce que, mais quand tu lègues quelque chose...
Non, mais tu as des boîtes qui organisent ça pour les gens maintenant.
Il y a peut-être un marché à prendre.
Ton fichier mot de passe .txt, là, tu le fous dans ton testament.
T'as des mecs qui t'organisent ça, qui t'organisent ta suite de vie. Parce que vu que chaque service n'a pas forcément coordonné ça, chaque site n'a pas dit on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Il faut qu'il y ait des mecs qui aillent dire récupérer les trucs un par un.
Mais ça, c'est un business, c'est des options au niveau des assurances ou des choses comme ça, dans les assurances vie.
Non, mais il y a même des boîtes qui font que ça.
Ouais. Sérieux ?
Attends, je vais t'en...
Aujourd'hui, t'as les trois...
Digitalbeyond.com.
T'as les trois réseaux sociaux principaux, Facebook, Twitter, Instagram, qui te donnent plus ou moins d'options quand un proche est décédé pour récupérer son compte.
Ouais, il faut un acte de décès.
Voilà, Facebook, c'est ceux qui sont le plus avancés là-dessus parce que t'as plusieurs choix, etc. Twitter, c'est moins évident, il faut envoyer plein de trucs, c'est galère.
Et, parce que imagine, en fait, Fibre Tigre meurt. Bon, ok, oui. Tout le monde s'en réjouit là. Hein. Après, après, qu'est-ce qui se passe?
Moi aussi,
en fait,
d'ailleurs.
Est-ce que le fait d'envoyer un acte de décès déclenche du coup la certification de son compte Twitter? C'est-à-dire que le mec est certifié post-mortem juste avant qu'on le tue.
De toute façon, attends, je vais vous dire.
J'ai pas compris. C'est-à-dire qu'il y aura un badge avec une croix grise derrière à côté de Fibre.
Une petite tête de mort ou un truc, tu vois. Ouais. Je sais pas comment ça se passe en fait. Parce que ce qui déclenche l'assertif, c'est le fait que tu puisses prouver auprès de Twitter que tu existes.
Ouais.
Donc si tu donnes un acte
de décès,
ça prouve l'existence de la personne. Donc son compte peut devenir certifié post-mortem.
C'est pas mal.
C'est pas le Fibre Tigre. En l'occurrence, ça s'appelle Fibre Tigre. Donc,
mais t'es certifié, toi.
Alors, j'ai fait des calculs que je démontrerai pas. Mais sur Twitter.
Parce qu'il en a honte.
Non, parce que c'est. Que sur Twitter, vous avez 8 followers sur 1000 qui sont morts.
Ah ouais, ouais.
Non.
Comment tu sais ça?
J'ai calculé avec le taux de mortalité du pays et le taux de gens connectés moyen.
Ça s'appelle le doigt mouillé.
Oui,
c'est une théorie que j'ai développée.
C'est vrai, c'est au doigt mouillé, mais c'est au-dessus de 0 et c'est en dessous de 300.
Surtout,
mais c'est à environ 8.
Effectivement,
petite marge.
Environ
8.
Non, allez, c'est 8. Faites-moi confiance.
Allez. C'est vrai. C'est...
Non, mais de toute façon, vous en avez au moins. C'est-à-dire, c'est fou d'avoir un follower mort. Mais c'est une bonne nouvelle. Les mecs qui vous unfollowera
voilà,
pas. Hein.
Voilà, c'est ce que vous avez fait. La bonne nouvelle, c'est que ces gens ne vous unfolloweront jamais.
On est passé de 8 à. Bon, c'est au moins 1. Ok.
Puis 300.
Entre 0 et 300.
C'est vrai que plus on va avancer, plus la société va vieillir, plus ça va être une question qui va se poser, hein, ce genre de choses.
Il va y avoir, je dis pas un embouteillage de cimetière, mais c'est un peu ça, en fait. Il va y avoir une sorte de résidu monstrueux de données mortes qui va traîner.
Ouais. Ça fait que 10 ans, là.
Et du coup, c'est ça la question. Qu'est-ce que les réseaux vont faire aussi? Parce qu'à un moment, tu peux pas te trimballer toute l'histoire de l'humanité qui traîne.
Bah non, mais ils les mettent. Alors,
oui ou non, je sais pas.
Ils les mettent en stockage froid, littéralement. Non, mais par exemple, ton archive Twitter, il faut que tu en fasses la demande pour l'avoir. Tu peux pas retourner aux origines. Ah, peut-être que si, remarque. Tu peux, avec une recherche avancée, retourner à tes premiers tweets en.
Non, c'est hyper chiant.
Ouais. C'est un petit peu compliqué.
Parce qu'on en arriverait à un moment où on croiserait peut-être plus de comptes morts que de comptes vivants. Dans 60 ans, par exemple.
Aujourd'hui, quand on a Internet Archive qui sauvegarde toutes les versions de tous les sites web année par année, donc il y a quand même des gens qui sont dans la peur de perdre des sites web, forcément, il y a des gens qui vont dire mais il y a des humains derrière ces comptes Facebook, il faut absolument les sauvegarder. Ça, il y aura cette démarche-là. C'est pour ça qu'il faut que, si on veut que le compte disparaisse, de son vivant, il faut dire je veux disparaître.
Ouais, attends, ça veut dire que si tu dis je demande officiellement à Facebook de supprimer mon compte.
Ouais, je sais pas si c'est possible.
Ça veut dire que dans Internet Archive, tu peux retourner sur facebook.com et retrouver le compte.
Non, c'est pas les trucs. Je parlais de la démarche de sauvegarde. Non, je pense pas.
Mais ça, tu veux dire
quelque chose. Oui, je vais dire un truc sur la sélection naturelle des sites Internet. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, MySpace.
Ah, là, là.
Je pense que nos comptes ne sont plus actifs, sont morts, mais peut-être encore là.
Non, ils sont encore là.
Ils sont encore là, mais personne ne va les voir. Quoi.
Ouais, c'est une armée de zombies.
Et donc, en fait, c'est un cimetière déjà, mais on s'en fout, quoi. On ne le voit pas. Enfin, on a l'impression de ne pas
c'est
le voir, alors qu'il est bien là.
Je sais pas, mais aujourd'hui, il y a
une
peau. Aujourd'hui,
c'est une vieille chenille, alors qu'on a aujourd'hui des beaux papillons.
C'est ton ancienne peau, en fait, que tu as laissé derrière.
C'est une ancienne peau, mais.
Il y a des gens qui visitent les catacombes, hein. Peut-être que des gens visiteront MySpace dans 30 ans, des gens, mais c'est incroyable, cette culture qu'ils avaient à l'époque.
Ils laisseront des graffitis, tu sais, sur les gens.
C'est ça.
Question qui fâche, question de l'argent. C'est ce qui déchire beaucoup d'héritage selon les testaments, puisqu'en général, on est tenu de léguer plus ou moins des parties égales, par exemple, à ses enfants. Comment on valorise son compte Twitter, ses docs Google? Est-ce que ça se valorise? Est-ce que ça se partage? Est-ce que des gens peuvent se déchirer dessus? en disant non mais attendez c'est dégueulasse, moi j'ai toujours été proche de Papa Fibre et puis le mec il me laisse une playlist Spotify et qui récupère tous ses piches de jeux vidéo dans Google Drive, c'est Lucien qui va toujours cracher dans la gueule, qui a jamais été là sauf à son enterrement.
Je trouve que ta question elle a lieu d'être puisque
il y a une valorisation quand même.
Aujourd'hui le mode de vente des comptes Twitter est le suivant, c'est des gens qui créent des comptes pour ados par exemple, ouais. Genre avec des citations de Coluche, c'est citationcoluche.com, le fameux compte hyper escroc. Et une fois qu'ils sont bien gros, ils les vendent à des marques qui tout d'un coup ça se vend. Donc pourquoi pas, effectivement, si le compte bien fat de Mélissa, moi j'aimerais bien en hériter à sa mort par exemple. elle a quand même 250 000 compteurs, tu vois, donc c'est quand même c'est du lourd. Et pense à moi.
D'ici là, Twitter sera aussi une petite potion.
Voilà, et donc effectivement, récupérer le compte Twitter. Pour diverses raisons, il y a peut-être aussi des marques qui disent tiens, j'aimerais bien récupérer mais ce compte à 8 millions. Tu
peut-on
vois
se déchirer? Peut-on diviser en trois comptes de réseau social ou un ensemble de photos numériques comme on divise en trois un appartement?
Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas léguer ses followers? En disant à Twitter, je demande d'en donner 25 000 à machin.
C'est marrant parce que tu occultes le fait que le follower, en fait, c'est le mec qui a fait l'acte de following à la base.
Hein. Là, c'est la sérendipité. Le mec se retrouve avec quelqu'un qui n'a rien à voir.
C'est qui cette personne que je follow?
C'est comme si tu abonnais quelqu'un à une newsletter qui ne veut pas, quoi.
Exactement.
Non, mais tout à fait. Puisque tu te retrouves, nos comptes internet et nos mails, par exemple, effectivement, sont ballottés de marketeurs en marketeurs qui se revendent des listes, etc. On est plein de trucs.
On va faire pareil avec les followers.
Et moi, j'ai une question. Parti d'un héritage. Aujourd'hui, sur Facebook, on fête les anniversaires. Facebook nous dit c'est l'anniversaire de machin. Est-ce que dans une génération, quand Facebook existe, sera encore plus gros, utilisé par tout le monde,
sur plusieurs générations,
et nous vieux, est-ce qu'on se connectera le matin et ils te diront « Ah, Sylvain est mort, écris un truc sur son wall ».
C'est horrible.
Bah, franchement,
je pense que c'est possible.
Je pense que tu peux avoir les rappels de décès pour dire ça fait 5 ans que Sylvain est mort. Viens déposer une gerbe de fer.
Attends, le 11 novembre,
soutien pour la famille, écrivez un truc sur le wall, tu vois, ça sera tourné comme ça.
C'est déjà un peu le cas par défaut.
La Toussaint, c'est IRL ça, depuis des années.
Oui, mais après, la Toussaint, elle a un statut de jour férié national.
Mais tu likes pas la Toussaint, quoi.
Ce serait marrant qu'à Halloween, tous les comptes morts de tes amis. Ils postent un statut méga surprise.
Ils mettent une pépée citrouille.
Oh putain, c'est glauque.
Je pense que tous les
ils peuvent le faire parce qu'ils ont tous les droits là. Parce que c'est YouTube, c'est Facebook, c'est ça.
Bon, en gros, on a bien rigolé, mais on n'a pas résolu nos questions.
Non, mais ça va être la merde. Franchement, ça va être la merde.
Comment on valorise l'accès à pas l'accès? Est-ce qu'on donne des choses qui nous appartiennent à moitié? Encore une fois, est-ce que tu donnes tout ta Dropbox en accès, mais plus en écriture?
Je pense que les gens, pour l'instant, ils ne se rendent pas compte du tout de la valeur.
Mais on est en train d'y arriver quand même.
C'est Internet, dans 10 ans, ça va être la merde.
Quand tu vois les histoires, tu sais, de... j'ai acheté une maison, j'ai retrouvé une valise, je l'ai ouverte, dedans il y avait la correspondance d'une mamie, donc j'ai fouillé dans les lettres qui ne me regardaient absolument pas, et je cherche le correspondant pour savoir s'il est encore mort pour lui remettre les lettres. Et je fais un livre dessus, et un site web.
Un Ulule d'abord.
Voilà. finalement, c'est ça, c'est fouiller dans des trucs qui ne te concernent pas pour essayer de trouver des pépites, et je pense que dans 50 ans, ton compte Dropbox, Fibre, si Dropbox est encore
exploser.
Là.
Est-ce que nos petits-enfants écouteront cette émission de Studio 404? Si c'est le cas, moi je voudrais les embrasser. Là.
Personnellement, ce sont des traces que je laisse, ça m'a descendu.
Alors on est en mode time capsule, c'est ça?
La time capsule, j'adore.
J'aimerais trop que ça survive.
Bon, question rapide, chacun, comment vous feriez votre testament si vous deviez léguer vos choses et que vous faites un testament qui ne part pas en cri contre le capitalisme et pour le travail des
un vrai testament tu veux
des
dire
actrices virtuelles.
Moi j'hésite entre deux trucs vraiment opposés.
Sylvain, vas-y.
Soit je laisse ce truc hyper wild, je touche à rien et je laisse les gens se débrouiller et se battre.
Si j'aime hyper wild comme ça. Si il y a de la mousse qui allait pousser petit à petit sur ton cloud.
Je laisse tout comme ça et je touche à rien. Soit je range vraiment tout, je ferme les comptes que je veux fermer, etc. Et je prépare bien soigneusement une petite Dropbox avec des dossiers par prénom pour tout le monde. Voilà.
D'accord, donc dans chacun, dans sa Dropbox, il trouve
Mathilde,
son héritage.
C'est ça.
Tous ses enfants, exactement. Florent, Mathilde, Thomas,
Jérôme, Lucien.
Porno.
Pour ma femme.
Porno, c'est pas un enfant, Fibre. C'est le,
oui, je sais,
c'est
mais comme ils étaient des dossiers, tu vois.
Ah, dossier caché.
Tu sais, s'il meurt trop tôt.
Imagine le truc affreux, tu retrouves le dossier avec tous les trucs, tout le porno de ton grand-père. Tu dis, putain, mais pourquoi j'ai hérité de ça? Le truc ignoble.
Franchement, c'est génial. Un petit dossier éducation sexuelle.
Voilà mes accès braseurs. D'autres choses, j'ai jamais uploadé avec ta grand-mère sur...
Une liste de tous les commentaires humoristiques que j'ai mis sur Pornhub.
toi, Nada, tu ferais quoi, du coup?
Je sais pas trop...
T'es MP3.
Comment tu l'agrées? Ta prod,
La prod de ouf. Non, mais je sais pas si je verrai la mort venir ou si je serai fauché dans
déjà, il a tellement de baskets à la gay.
Imaginons, mais non, justement, les baskets, on est plus dans le lumière.
C'est-à-dire que je le vois venir quand même.
Ouais. Non mais là, oui, non mais aujourd'hui, tu fais ton testament.
Ouais.
Voilà, tu es clair d'esprit, tu fais ton testament pour te préparer à l'aider.
Je pense que j'essaierai de centraliser les trucs que je pense qu'ils doivent rester parce que on va pas se mentir, toute la production que tu fous dans un drive, c'est pas que des trucs super top à lire, tu vois.
Ouais. Souvent, alors j'ai mes présentations PowerPoint.
Oui, allez, j'ai au moins 250 docs qui commencent par
nouveau
sopalin,
document.
Aubergine, concombre, lubrifiant, des trucs comme ça. Et en fait, c'est
attends,
pas super.
Sopalin, aubergine, concombre, lubrifiant.
Ouais.
Je vois se dessiner un pattern.
C'est du course perso.
Du coup, en fait, ce hasard n'était pas très hasardeux. Bah, écoutez, on a les listes qu'on mérite. Non, mais tout ça pour dire que tout ne mérite pas de nous survivre, en fait, je pense. Donc, je crois que j'essaierai déjà de faire un rangement, c'est-à-dire créer un nouveau drive dans lequel je fous les trucs qui, selon moi, doivent rester ou sont intéressants.
À qui iront-ils?
Bah, à ma descendance, pour le coup.
Vous auriez pu être à des œuvres, à des bonnes œuvres, par exemple, comme Fibre disait, genre.
Alors les bonnes œuvres, que je me demande, parce qu'on va foutre de récupérer tes jeux de rôle flingués là, tu vois. Franchement, à un moment donné, faut accepter d'être qu'une poussière d'étoiles, tu vois.
Tous mes jeux Steam, Out There 1, Out There 2,
Out There Chronicle.
Okay. Après tous les jeux qu'on pompait sur Out There.
Écoute, c'est comme quand tu donnes des vieux t-shirts. S'ils en veulent pas, ils le jettent. Mais si peut-être il y aura quelqu'un qui voudra jouer.
Ouais,
tu vois.
Mais de là, le donner aux bonnes œuvres. Tu vois, je pense que c'est avoir une bien haute estime de soi-même que de penser que ça puisse servir.
Ça, on en parlera après.
En vrai, Fibre n'a pas tort, parce que dans les hospices de demain, les mecs joueront aux jeux vidéo, quoi.
Ouais. FTL à Hauts-Zer. Non, mais ça fait 35 ans que je joue, j'ai toujours pas fini ce jeu de merde. Il n'y a pas de fin, je crois qu'il n'y a pas de fin. Le mec est mort, on peut même pas vérifier. Salaud. Hein.
Tu donneras ton Oculus, ils joueront avec des vieux Oculus.
Ah oh, oui, ce sera vintage.
Et voilà.
Non mais voilà, moi un drive un peu clean, un peu
donc un peu comme Sylvain, un truc un peu rangé, Redux, hein, un best of,
voilà, un truc comme ça, ouais.
Classifié pour la descendance et pas de préférence. Donc genre tu diviseras également tes richesses ou
si j'ai plusieurs descendants
ou des petits
non t'as un chouchou quand même.
Ouais.
Non, truc à pas, feu, pour mon enfant préféré, c'est le dossier. L'enfant préféré. Bon, bah toi.
PUBG.
Toi seul connais le mot de passe.
Non ouais, je pense que ouais, je ferai un truc à part égale.
D'accord, très bien.
Classique. Du coup, tu ferais estimer tes trucs ?
Oui, voilà.
Comment ? Non, c'est-à-dire qu'il y a...
Mais quand tes enfants vont se déchirer pour ton héritage,
tu vas estimer toi-même.
Il y a
4
téras, il y a 4 téraoctets de données,
par exemple. 1 téra
chacun. Vous prenez chacun 1 téra, si vous êtes
c'est chaud, parce que dans les téras, il n'y a pas la même chose.
Bah oui. Qui prend la photo à 300 likes ?
Ouais.
Les gars, moi j'ai un compte organique, hein, je vous rappelle.
Non mais excusez-moi, 300
likes, c'est ce que j'ai depuis le départ sur l'ensemble de mon compte.
On parlait de Steam tout à l'heure, mais il y a des gens qui ont des milliers de jeux sur Steam et ça représente des milliers d'euros aussi. Ouais.
Oui, mais alors Steam, le truc, c'est qu'il me semble avoir lu quelque part que ce que tu achetais sur Steam, c'était pas, t'avais pas la propriété du titre.
Ah bah si, c'est pas.
Tu peux y jouer pour l'éternité.
Donc c'est incessible. Non, justement.
Enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux pas léguer tes jeux
accessibles. Tu ne peux pas le céder à quelqu'un.
Attends, justement, je l'ai expliqué dans ma chronique. Tu crées un compte family.
Mais ça n'existe pas, ça.
Si, j'ai mon compte family avec ma famille et on se partage nos jeux Steam.
Ah.
Voilà.
Moi, j'avais cru comprendre qu'en fait, tu n'avais pas le jeu. T'en avais la jouissance, mais que du jour au lendemain,
c'est pas Spotify.
Ah ouais.
Oui.
T'en as pour l'éternité. Voilà.
Et d'ailleurs, Netflix, tu peux avoir que 2 écrans. Imagine, t'as 3 enfants.
Mais si t'as 2 écrans, déjà, c'est que t'as pris le compte un peu craco, quoi. Les vrais, ils prennent le compte avec UHD plus 4 écrans plus.
Et si t'as 5 enfants.
C'est la merde.
Bon, Mélissa, toi qui. Tu nous l'as annoncé, hein, elle s'en est pas rendu compte, mais elle nous a annoncé qu'elle allait avoir des enfants. Donc Mélissa est enceinte, on peut l'applaudir. Bravo Mélissa.
Fake news, les amis.
Ça allait vite, hein.
Ah putain.
Ça t'apprendra. J'avais
pas vu venir,
ça t'apprendra pas de donner d'infos, même sur le nom de ta boîte. Voilà.
C'est magnifique. Balance. J'ai hâte de connaître la prochaine fake news que tu vas sortir pour avoir la vraie info.
On saura le nom de ses enfants quand ils auront 3 ans.
Mélissa qui compte avoir des enfants dont l'aîné s'appellera Joël, puisque son mari s'appelle Joël Ronez. Voilà, je balance, je continue à balancer des infos.
J'aime un peu cette vie alternative.
Donc, Joël et toi, qu'allez vous faire quand vous allez léguer? Quand vous allez.
Alors moi ça m'éclate vraiment, mais en fait du coup je vais aussi l'organiser, mais ça va vraiment m'éclater de ranger, genre là je suis vraiment excitée à l'idée
en
de
fait,
ranger.
Je peux te dire ouais, en fait mourir c'est surtout ranger tout bien.
Bon. Ce qui ne va pas du tout avec la lecture du livre de Titu, vraiment, oui. Ou qui dit arrêtez de ranger. Non mais oui, j'organiserai tout, mais en fait j'ai vraiment une vraie question sur comment faire estimer le truc. Vraiment ça me
c'est vrai.
Ça me déchire, quoi. parce que j'ai aucune. En
fait. Mais ça va avoir une valeur à un moment, certaines choses.
Mais en fait, le truc,
c'est une valeur à tes yeux ou pas?
Non, mais surtout, ce qu'on pourrait jamais estimer, c'est que comment ça va survivre. Parce qu'en fait, mon compte Twitter, qui est selon Fibre, est le truc qui vaut le plus cher pour l'instant. Ça se trouve, il vaudra rien dans 2 ans, quoi.
Imagine.
Ou dans 10 ans ou dans 20 ans.
Imagine, mais elle a raison, Mélissa. Imagine, là, il y a déjà des jeux où tu te rends compte qu'il y a des items qui sont collectors et que tu peux plus acheter, qui valent une fortune sur H1Z1, sur Dota, sur ce que vous voulez. Ça a une valeur déjà, on parle de valeur. Donc quand vous léguez quelque chose et vous dites, oh, non mais attends, là, il nous lègue un jeu. Et dans le compte du jeu, il y a cet objet qui est collector. Donc depuis 70 ans, tout le monde court après. Tous les fans de Star Wars n'ont pas ce truc de Battlefront 2, etc. Ça vaut 15 000 $, il y a une valeur. Il y a une putain de valeur.
15 000 $,
donc en fait, je range rien.
Bah, tu sais, t'as des bandanas qui valent 5 000 $ dans H1Z1. Un bandana.
T'as des comptes Xbox qui ont débloqué certains achievements qui étaient possibles que dans le passé.
Exactement.
Et maintenant, tu pourras plus.
Et je suis assez persuadé qu'il va y avoir une vraie valeur avec le temps qui va.
Quand même un marché de niche. C'est-à-dire que t'as une valeur théorique, mais ça veut pas dire que tu vas réussir à la vendre.
C'est 100 millions.
Ah oui, mais. C'est comme me dire, Daz, oui, pour les cartes de joueurs de basketball, c'est une valeur théorique. On a eu un secours. C'est quoi? Un mec, il a fait un crédit conso de 10 000 € pour acheter les cartes.
Oui, non, mais d'accord, mais tu vois, c'est pas parce que un tableau chez toi est coté à 150 millions que t'arriveras à le vendre, en fait, tout le monde s'en
fout. Non, mais ça veut dire que tes héritiers peuvent se battre pour l'avoir quand même.
Non, je sais ce que je voudrais faire.
C'est-à-dire que le t-shirt suprême que je garde là.
Oui. Non, mais là, c'est classique parce que c'est un bien matériel. Oui, il a une valeur. Là, on parle de bien immatériel.
À la fin de ta vie, tu voudras tellement cher toi que ce sera le t-shirt suprême de Daz et pas simplement un t-shirt suprême.
J'ai des doutes, mais d'accord.
Mélissa.
En fait, j'aimerais trop inventer un jeu qui teste tes compétences numériques. Et en gros, tu as l'héritage le plus cher en fonction d'un truc qui calcule en permanence le truc le plus cher. Et tu gagnes parce que tu es bon en Internet.
Genre, si tu dis que t'es direct, t'as que dalle. Tu
une enchère de compétences.
Ouais. C'est un peu chaud quand même pour mon héritage.
Je pense que de même que les assurances, elles sont un peu dans ce milieu-là, de l'assurance numérique, peut-être qu'il y aura estimation de patrimoine numérique un jour.
Restons sur les messages de gamifier le leg.
Ouais, franchement, c'est la meilleure façon de savoir. Enfin, que les gens qui vont hériter de tes trucs sauront la valeur de la chose, mais vu qu'ils seront assez bons en Internet.
Ça existe depuis toujours, les pirates qui disent, genre le mec de One Piece, ouais, trouvez mon trésor, tu vois, c'est ça. C'est
la gamification du leg. Pourra vraiment les trouver, quand même.
Non. Enfin là, t'auras juste un mot de passe. Bon, en tout cas, c'était la fin de ce sujet de Fibre, et on va attaquer tout de suite la première FAQ.
FAQ.
On a plein de bonnes FAQ ce mois-ci. Merci à nos auditeurs, toujours nous régaler avec leurs petites questions. Attention, une question de Cyril Krilatov, qui est un habitué de l'émission, et qui nous demande si vous aviez la possibilité d'imposer une loi qui modifiera profondément le domaine du numérique, pour quelque chose de mieux ou de pire, applicable le lendemain de votre demande, quelle serait-elle? Donc en gros, vous êtes dans la peau de notre ami Ounir, avec les pouvoirs absolus d'un dictateur.
C'est un peu la baguette magique, là.
Alors, oui, moi j'ai. Et une loi, vraiment une loi qui modifie profondément le domaine du numérique. Fibre.
Sans hésitation, l'interdiction des mécaniques d'addiction dans les jeux vidéo free-to-play.
Voilà. C'est beau et c'est pas du tout dans la tendance.
Non, mais c'est quelque chose que je dis de façon constante, c'est les nouveaux escrocs, et notamment le marché des seniors est très, très vulnérable.
Oui, c'est vrai. Mais pourquoi que dans le free-to-play, pas dans les jeux payants?
Ah non, mais dans les jeux normaux, mais le free-to-play, c'est là où ça s'épanouit le plus.
Le pay-to-win.
Après, s'ils mettent une mécanique d'addiction dans un Assassin's Creed que tu termines en 40 heures, même si t'es accro, au bout de 40 heures, il est terminé. Voilà. Et tu peux le rejouer une deuxième fois, mais en général,
donc
tu passes par un autre.
Donc t'es d'accord avec Star Wars Battlefront, alors? C'est comme ça qu'on le comprend.
De quoi?
Star Wars Battlefront 2, tu sais?
Je suis pas tout d'accord, puisque je dis qu'il faut enlever les mécaniques d'addiction.
Ouais, mais tu dis que pour les jeux que tu payes, c'est pas grave.
Mais c'est un jeu infini, Star Wars Battlefront, c'est pas un jeu...
C'est un jeu en ligne, donc en fait, quand tu joues en compétitif,
c'est infini. Ce que je disais, dans le free-to-play, c'est dans les jeux qui n'ont pas de fin. C'est les jeux qui sont... Il n'y a pas de mécanique d'addiction dans Outer.
On notera que Daz a attaqué 10 fois sur Outer parce qu'il n'a plus Slate sous la main.
C'est la jalousie.
C'est vrai.
Tel un enfant qui en a volé le jouet.
Ouais,
et voilà,
dès que Mélissa déclare le nouveau nom de sa société, elle prendra comme avant.
Ouais. J'avais le dire.
Alors, contrairement à Mélissa, moi je dis, comme au Front National, bad buzz is buzz. Donc tu peux dire autant de mal que tu veux d'Outer, je suis très content.
C'est un très bon jeu en plus.
T'as vu à chaque fois comment il s'excuse Daz?
Oui,
la caution.
Regarde,
j'adore en fait.
Je te montre l'extrait. Regarde, j'ai dit que c'était un bon jeu, non?
C'est un bon jeu. Bon, vous prenez le truc hors contexte.
Qui d'autre veut répondre à cette question? Une loi du numérique qui modifierait profondément le paysage numérique pour le mieux, pour le meilleur ou pour le pire?
Moi, j'en ai une.
Daz.
C'est forcer les entreprises qui font fortune sur le numérique à héberger les données et à payer les impôts à l'endroit où sont les utilisateurs.
Oh, oui, c'est bien ça, bravo.
Tu ne serais pas un digital champion, toi, Daz?
Je suis Gilles Babinet.
Pas la Commission européenne.
J'ai quitté Apple pour Samsung, parce que j'ai apparemment une grille de lecture du monde un peu débile, mais ok. Non, mais oui, c'est quelque chose que je trouve... Je trouve ça un peu grave que personne n'entérine le truc.
Il y en a qui râlent, mais je pense que...
Sur la partie uniquement des impôts, oui, qu'ils ne payent pas avec des optimisations, des sandwichs irlandais et tout ce que tu veux, mais sur le fait que tes données actuellement que tu as quand tu utilises les serveurs de Google sont hébergés en Irlande ou en Californie et pas en France, eh bien, ça me chagrine. Voilà.
D'accord.
Car nous avons de très beaux data centers en France.
Oui, chez OVH, par exemple.
Par exemple. Les meilleurs.
Super.
Les meilleurs. Ils sont partis OVH en camp. Ils sont partis en camp 2, comme tout le monde.
Des bisous OVH. Ils ont une petite panounette. Voilà. Bon. Sylvain Mélissa, est-ce qu'il y en a un de vous qui a une idée de loi ou pas?
Bah, Mélissa. Une petite. Alors, j'ai conscience que c'est extrêmement pas simple.
Mais étant donné que c'est la baguette magique,
une petite loi anti-harcèlement, mais. Enfin, qu'il ne soit pas juste une loi, qui soit vraiment le truc efficace qui fait qu'une fois que tu as harcelé, c'est fini pour toi, tu vois.
Mais à quoi ressemble cette loi anti-harcèlement en ligne?
Bah, harceler, genre le fait de harceler quelqu'un.
Ok.
Donc, à partir du moment où tu as harcelé vraiment une fois, c'est fini pour toi.
Ah d'accord, donc en fait...
Tu ne peux pas te reproduire sur Internet.
Castration virtuelle.
Castration chimique virtuelle immédiate.
Mais comme... Oui, ok.
Attends. Un truc, j'ai bien conscience que c'est pas faisable là tout de suite.
Il y aura une police demain. Il y aura une police des mœurs sur Internet.
Oui, il y aura une police des mœurs.
Non, pas de police.
La Vice Squad.
J'ai pas conscience de comment on peut le faire vraiment.
Une police secrète comme chez Daesh.
Un truc qui améliore l'ambiance. Quoi.
Tu proposes que quand quelqu'un harcèle une fois, à vie, il est privé d'Internet?
Ouais.
Oh, c'est bon ça, j'adore.
Zéro tolérance.
C'est violent quand même, hein. Parce que tu exiles quelqu'un.
C'est la même chose que dans la rue, mec. Enfin, tu vois, la vie réelle, c'est Internet, c'est la même chose.
D'une main, Fibre tient son micro, de l'autre, il efface ses anciens tweets. Je le vois.
Non, je suis surpris parce que
quand tu harcèles quelqu'un dans la rue, tu peux te poursuivre, c'est pas...
D'accord, on peut te poursuivre.
C'est la même chose.
Je vais même aller très loin, tu peux faire 5 ans ou 10 ans de prison, donc tu peux être exclu de la société pendant 10 ans. Voilà. Mais là, tu proposes une exclusion à vie de la vie d'Internet. Je trouve que c'est encore plus violent que l'exclusion.
On peut faire des peines aussi, tu vois, mais...
Ah d'accord, donc l'exclusion temporaire, un peu comme sur les forums, on kickban genre.
Non, mais pas 3 jours.
Oui, d'accord.
Et tu peux pas recréer un autre profil, tu vois.
Oui, c'est ça le truc plutôt, c'est de se dire que... Tu peux vraiment bannir pour de bon ou time out pour de bon.
Là, ça te tue quoi.
Bah oui, mais ça peut être faisable là, via
Oriente. C'est pas du tout arbitraire.
Non, mais aujourd'hui, il y a un problème, c'est que tu ne peux pas bannir quelqu'un de la vie internet quand il a fait du harcèlement ou de la menace de.
C'est presque possible. Avec le problème,
c'est pouf paf.
Non, même de l'appel à l'aide. Tu coupes la tête d'une hydre et il en repousse deux de toute façon. Parce que la personne se recrute autant de comptes qu'elle veut. Je suis d'accord.
Notre mail et puis voilà.
Mais c'est presque possible avec le provider, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme la France. Et à ces fameuses boîtes noires chez les providers locaux.
Et oui, c'est vrai.
Et ben, il pourrait juste dire, ben voilà, on coupe votre compte Orange. Le mec, il est obligé d'ouvrir un compte CSFR. C'est tellement chiant qu'il le fera pas deux fois.
Et on fait ça avec le budget d'Adopi. Et c'est bon.
Voilà.
Adopi, fantastique. Ça a quelque chose.
On a inventé.
Je vais en toucher deux mots avec des gens de chez Webedia. Sylvain.
Moi, j'en ai deux. J'en ai une qui est chiante. Elle touche à ma vieille marotte du web décentralisé.
Okay.
C'est du coup de soit d'interdire le monopole des 3 FAI ou des 4 FAI.
Okay.
Genre, on éclate tout ça. Et on fait du décentralisé, chacun du TNFI indépendant. C'est mon programme pour lequel j'ai été élu, d'ailleurs.
Un monopole à 4, hein, c'est intéressant.
Oui, c'est un monopole à 4.
Un quadripole.
Un quatrepole.
Un tétrapole.
Mais j'ai une proposition de loi beaucoup plus efficace et qui améliorera beaucoup plus mon quotidien et qui va complètement bouleverser mon utilisation d'Internet. C'est, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir Internet chez mes parents à la campagne?
Oh, le projet de loi de merde.
Même pas la fibre, juste Internet déjà.
Ah, Internet, hyper cool.
Il n'y a pas Internet.
Putain, la vision du mec, on lui file la ministre. C'est une baguette magique entre les mains. Fait, oh, je peux avoir Internet chez les parents, tu peux tirer un câble.
Dans le 42, merci, dans le 42 s'il vous plaît.
C'est, merci. Donc c'est quand même. C'est là-bas qu'il faut faire le camp.
Au 28K. Ah ouais, complètement.
28K.
On est 28K là. Putain,
et vous avez l'eau courante, électricité aussi ou...
Ouais, c'est bon.
C'est fou.
Panneau solaire.
Ça marche.
Bah, est-ce qu'ils sont exceptionnellement isolés en vrai ou est-ce que...
Non, pas trop en plus.
Okay.
Non, mais 28K, c'est
une
pas
commune de une centaine d'âmes, tu vois.
28K, c'est comme si t'envoyais toi-même tes courriers par avion en papier, tu vois. C'est le débit.
Tu sais où j'en suis? Je prends mon téléphone, donc il n'y a pas trop de réseau, et je le mets sur le toit pour avoir la 4G.
Oh putain. Ah, t'as quand même la 4G sur le toit.
Ouais, mais sur le toit. Et c'est lui qui émet le Wi-Fi
pour tout le village.
T'as raison. Tu vois,
c'est tel un phare dans la nuit.
Tu vas pas la débarquer avec Internet.
Et genre, ouais, la Livebox, machin. Je lui dis, bah oui, mais connecte-toi à mon téléphone, ça ira plus vite, quoi.
28K.
C'est très triste.
La 4G sur le toit, un film.
Bon, la fin de la 24.
Jean Jacques Hano.
La fin du 28K, c'est une belle voix. Allez, on attaque tout de suite le deuxième sujet, et c'est Mélissa qui va nous parler de la postérité.
Sujet numéro 2.
Est-ce encore utile de tromper la mort avec la postérité ?
Question très philosophique. Alors, pourquoi parle-t-on de la postérité quand on parle de la mort, Mélissa ?
Écoutez, si je mourais demain, ou ce soir, on pourrait inscrire sur ma tombe 1h31. Nous enregistrons toujours l'émission de juin de Studio 404 où nous parlons beaucoup du temps qui passe.
Un vrai tweet.
C'est une phrase que j'ai décidé de publier sur Internet. Ce n'est pas mon tweet le plus viral, rappelons qu'il était 1h31. Et pourtant, cela fait partie de mon œuvre. C'est l'un de mes 21 000 tweets que Fibre veut racheter. Voilà une partie donc de ce que je transmettrai à ma descendance, mais en vrai, je ne vais pas le faire, on en a parlé un peu plus tôt. Mais ma descendance a-t-elle besoin d'autant de choix pour inscrire quelque chose sur ma tombe ? En vrai, je ne veux pas de tombe, sachez-le. Mais je veux quand même penser à ce qui va m'arriver ensuite. Si je mourrais aujourd'hui, en fait, je n'entrerais pas dans la postérité.
Comment ça ?
Bah, en fait, on va comparer Mélissa Bounois à Hemingway.
En toute simplicité.
pour comprendre que je n'entrerais pas dans la postérité, disons-le très vite.
Franchement, c'est flatteur pour Hemingway.
Ouais. Quand Hemingway est mort, il avait donc publié 9 romans, plein de trucs autobiographiques, des dizaines de nouvelles. Ça fait des milliers et des milliers de mots.
Et puis il avait inventé le Moleskine aussi.
Voilà. Faussement le Moleskine. Ça fait quand même des milliers de mots, comme moi aussi, j'ai écrit des milliers de mots. Mais je ne suis vraiment pas Hemingway, parce que Hemingway, les gens se souviennent de lui. Je ne sais pas s'il a des rues à son nom. Peut-être qu'il a des rues à son nom. Aux États-Unis.
Il y a une très belle plaque en marbre dans le 5e arrondissement, là où il a vécu.
Ok.
Très bien. Chez moi, j'ai racheté la part.
En face de la rue Rollin.
À côté du Wi-Fi ouvert.
Merci Stéphane Bern.
Bref, mais aujourd'hui, qui serait considéré comme Hemingway ? Donc pas moi, on a compris. Qui aurait laissé une trace remarquable ? Est-ce que ce serait un réalisateur, un écrivain ? Oui, ça on peut dire oui, mais surtout, est-ce que ce serait un YouTuber ? Est-ce que ce serait un influenceur ? Est-ce que ce serait Steve Jobs ? En fait, les choix se sont démultipliés. Et on a tous un peu l'impression qu'on est dans la postérité, qu'on a plein de trucs à léguer, on en a parlé, parce qu'en fait, la postérité, c'est vraiment léguer, enfin, rester dans la mémoire des gens qui nous suivent. Mais en fait, les gens qui nous suivent, c'est plus seulement notre famille, c'est aussi notre communauté. Donc j'ai beau avoir quelques milliers d'abonnés sur Twitter, en fait, je crois pas que moi, j'aurais
Apple
vraiment...
Apple
tu devrais le faire en allemand. Je pense pas qu'on se souviendra de moi pour ça. Et en fait, paradoxalement, aujourd'hui, en fait, c'est beaucoup plus facile de s'assurer que les générations suivantes se souviendront de nous. Mais en fait, c'est devenu beaucoup trop facile. Et surtout, on pense pas du tout à ça. Enfin, je sais pas si vous, quand vous tweetez, peut-être Fibre pense à ça, mais pas moi.
À la postérité.
Je pense à la mort quand je tweete.
Chaque matin, il est préparé à mourir.
Exactement,
sachez-le.
J'allais le dire.
C'est quoi le truc avec Pécresse aussi que Fibre dit là ?
Voilà. Ah oui,
on va pas citer les offs du stack.
Je baise Pécresse toutes les nuits.
Non, mais en gros, on réfléchit. En fait, on réfléchit pas du tout en termes d'avenir et de mort. Peut-être Fibre.
Postérité.
En fait, on pense qu'on est immortel justement parce qu'on produit plein de trucs. On va le voir avec Daz et Sylvain. En plus, on a le vague espoir que finalement, on va pas vraiment mourir, que ça nous semble assez proche.
Spoiler.
Alors qu'en fait, Hemingway, lui, il écrivait sur la vie et la mort parce qu'il savait qu'il allait mourir à 40 ans parce qu'il avait bu trop d'alcool et c'est comme ça un peu qu'il est entré dans la postérité. Aujourd'hui, la techno, ça a complètement démocratisé la façon dont on passe à la postérité, mais ça l'a aussi complètement désacralisé. C'est-à-dire qu'on se croit un peu célèbre, mais en fait, il suffit pas d'avoir un bon site ou une super présence sur les réseaux sociaux ou d'avoir auto-édité son roman. On a tous l'impression d'être un peu connus, mais est-ce qu'on passera à la postérité ? Est-ce que tout le monde va passer à la postérité ? Est-ce que, en fait, personne va passer à la postérité ? Eh ben non, ça n'arrivera pas comme ça, les mecs, je suis désolée de vous le dire.
Comment ça ? Comment ça, Mélissa ?
Ça ne va pas arriver comme ça. On est hyper rassurés, on se dit c'est bon, tout va rester, mais en fait, on va se souvenir de Steve Jobs, parce qu'il a inventé l'iPhone, enfin, tu vois, c'est Apple, quoi. Mais on va pas se souvenir de Tony Fadell, qui est quand même l'homme qui a fait un peu l'iPod, quoi. Donc, qui est un truc que énormément de gens ont adopté. Donc, encore moins de nous, avec notre petite activité Internet. En fait, on n'a pas disrupté. C'est ce moment de la chronique où je vais dire qu'en fait, entrer dans la postérité aujourd'hui, c'est disrupté.
Oh, Sylvain, il a joué.
Sylvain,
silencieusement, a joué. Ah, le petit pitch, là.
Bah, il a disrupté l'écriture à tel point que ça a passionné des gens qui, tu vois, ils se sont souvenus de son écriture.
Il a inventé tout un courant d'écriture, Hemingway.
Et c'est comme ça. Et nous, on a, pour l'instant, on fait beaucoup de choses, mais on n'a pas encore inventé quelque chose.
Pour moi, Hemingway, c'est des cocktails dans des bars à la con. parle pas du même alors.
Non, effectivement.
Effectivement.
Non, mais après, chacun a ses références, mais en vrai, si tu vois, dans les gens qui vont avoir compté dans ta vie, tu pourras toujours leur dire ok, j'ai fait des tweets viraux avec 500 retweets. Tes petits-enfants, ils vont dire c'est bien, je te fais un bisou. Et en fait, ils te considéreront juste comme le vieux papy qui monte ses petites médailles de guerre. Alors qu'en fait, si tu inventes vraiment, et je sais que vous allez le faire, la façon de nous rendre immortels, là, il se souviendra de toi.
Ah,
j'avoue.
Donc, Mélissa.
La postérité, c'est pas en tweetant.
Rappelons que.
Voilà. Sachez-le.
Et là, ils sont tous en train de dire putain, mauvais choix de vie.
Rappelons qu'Hemingway a écrit ne demande pas pour qui sonne le glas, il sonne pour toi.
C'est bon. Il est bon en côte aujourd'hui.
Il est lancé à la mort aussi.
Bah, il voulait se rattraper de sa côte d'être ou ne pas être.
Et dans la section héros, il dit pour qui sonne la glace. Voilà, c'est
formidable doublage.
Non, parce qu'on se disait postérité pour tous, mais un peu postérité pour personne. Pas grand monde. Quoi. Bah,
donc, en gros, la postérité. Tout le monde y accède, parce qu'on vous rappelle que c'était au moment où tu produisais quelque chose, une chanson, un livre, etc., tu rentrais dans la postérité. Et c'est ce qui motivait beaucoup d'artistes et d'écrivains et de créateurs.
Vous croyez vraiment que c'était
de scientifiques Non, c'est des gens justement qui pensaient pas à ça. Nous, on pense tellement à notre célébrité qu'on n'invente pas les bons trucs, quoi.
Alors, passer à la postérité, c'était littéralement ça. C'est
oui, passer à la postérité, mais le fait que
tu existais à travers.
Comment on appelle les académiciens ouais. On appelle
les immortels.
Les immortels.
Oui, mais en fait, non, mais
parce qu'en fait, quand tu rentres et que tu produis quelque chose, en fait, quelque chose te survit, une trace te survit.
Mais est-ce que tu penses par exemple que Marc Lévy, paix à son âme, est-ce que tu penses que Marc Lévy, lui, quand il écrivait ses romans, genre je reviens te chercher, ne t'en va pas sans moi, n'éteins pas la lumière, tout ça là. Est-ce que tu penses que lui pensait déjà à l'après?
Quel est le
pas forcément l'après, mais c'est-à-dire que la plupart des gens quand on a beaucoup d'amis qui écrivent et la première fois où un livre est publié,
t'as un petit côté là.
Ils savent qu'ils vont faire zéro vente, mais ils ont un truc genre putain j'ai publié un livre.
Avant
cette fierté là, d'où vient-elle si c'est pas une fierté financière ou autre qu'une fierté de reconnaissance et donc de postérité? Mais comme dit Mélissa, la postérité aujourd'hui, écrire un tweet, donc quelque chose qui va te survivre. Envoyer un son, faire un podcast, c'est l'œuvre de tout le monde. Il n'y a aucune gloire à passer à la postérité à cause du numérique.
On va s'en souvenir parce qu'il y en a des milliers, des milliards, des millions.
Et effectivement, on désacralise, on dévalorise la postérité parce qu'on est tous immortels maintenant.
Donc du coup, effectivement, ce que tu dis toi, c'est que pour passer à la postérité dans le numérique, il faut disrupter.
Tout à fait.
Il faut révolutionner quelque chose, il faut qu'on se rappelle de toi.
Là, on ne révolutionne rien du tout, on discute.
Produire et publier n'a plus aucune valeur en fait.
Mais c'est un triste constat et c'est là-dessus que je partirai.
Mais on s'éclate, mais on s'amuse.
Si bon. Pas, c'est... J'ai trois points. Ah. À l'ancienne. Alors, première chose, un des livres les plus. Je crois que le livre le plus vendu avant les années 2000, c'est un livre que vous ne connaissez pas, qui s'appelle A Tale of Two Cities de Charles Dickens, qui a été vendu, mais genre.
Le mec le prend pour.
Désolé, mon gars.
Vous connaissez, vous connaissez
pas le seul à avoir la culture, merde.
Non, mais Charles Dickens, il est un peu connu.
Comme
non, mais je parle de A Tale of Two Cities.
D'accord.
Oui, A Tale of Two Cities, un très bon morceau de rappeur Big Pooh avec Fonté et Kesslack.
Voilà, et ben.
Et tout de suite, on écoute.
C'est un livre qu'on connaît pas trop, non, mais c'est pour vous dire qu'un livre peut être extrêmement vendu à une période et après sombrer dans l'oubli. Alors ensuite, le deuxième point que je voulais dire, c'était que j'ai souvent cet exercice mental, et on l'a fait avec vous ensemble au mariage de Sylvain, de se dire, et si ce grand génie était à l'époque, si Mozart aujourd'hui était sur Internet, était un millennials, il ferait quoi? Et je pense que Hemingway, en particulier Hemingway, s'il était, il serait sur Twitter. Il serait sur Twitter.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Plus tard, et il sortirait des clashs de malades. Et,
oui.
Et il serait hyper intéressant. Non, mais c'est vrai.
Mais du coup, franchement, il serait pas
Hemingway. Moby Dick, qu'est-ce qu'il y a?
Non, mais franchement, il serait pas Hemingway s'il continuait à faire des tweets clash, je pense. Peut-être qu'il inventerait un truc, franchement.
Si, parce qu'il clashait avec Louis Ferdinand.
Non, mais peut-être qu'un jour. Il faudrait qu'il invente un truc. Il faudrait pas juste qu'il tweete ses romans, quoi, je pense.
Ce serait du clash de haut de volée.
Et alors, toi, tu soutiens la thèse que on se survit à soi-même si on disrupte.
En fait, que t'es sur le bon format et que je renouvelle un truc.
Voilà. Alors moi j'aimerais ajouter
une conjonction, c'est pas juste toi, quand tu atteindras vraiment la postérité en révolutionnant, en disruptant, parce que en créant ça ne sert plus à rien.
Genre le mec qui a inventé le retweet. Le premier retweet manuel ou le hashtag. Parce que c'est un mec qui va passer à la postérité, ça. Le mec qui a inventé le hashtag, c'est quand même.
Non, mais Zuckerberg.
C'est un vrai truc, mais le patron de Twitter a limité encore, on le connaît pas trop, alors que le patron de Facebook.
Alors, attends, juste mon troisième point, c'est tu disais que ça, que on va dire la disruption était nécessaire pour le passage à la postérité. Je soumets une nouvelle idée, qui est que en fait, la célébrité, c'est un consensus de la société. Et pas forcément, en fait, on se trouve nos propres icônes et on décide que c'est nos icônes, même si elles ne sont pas légitimes et si elles n'ont rien disrupté. J'ai un exemple hyper célèbre, c'est Einstein. Einstein, tout le monde dit waouh,
il a. Journal du geek.
Einstein, Albert Einstein, un physicien, tout le monde dit waouh, il a inventé la théorie de la relativité. Et or, il a eu deux prix Nobel et il n'en a pas eu du tout pour la théorie de la relativité. La théorie de la relativité ça a été trouvée par quelqu'un d'autre, enfin, ça a été. Par lui, mais c'est un consensus de gens. Et en fait, on en a fait une icône. Et c'est quelqu'un qui a joué aussi avec son image. On a joué avec son image. Et l'Amérique aussi l'a mis un peu en avant. Regardez, les Allemands, vous pouvez venir chez nous. Tu vois.
Du branding de physicien. Ouais.
Exactement. Et c'est peut-être le branding de nos personnalités. Merci Sylvain. Qui va nous survivre.
Oui, mais il avait fait des trucs derrière. Tu vois,
il y avait un peu de légitimité. Mais
modifier la société.
C'est-à-dire que c'est pas l'œuvre, mais l'image que tu te fais de l'artiste.
Ouais. Voilà, c'est ça.
Est-ce que tu veux dire qu'à la mort de Jérém Star, par exemple, on se passera ces interviews baignoires en noir et blanc, en slow motion, avec une musique de James Blunt.
Si
tu viens de résumer un programme de M6 là.
Si on décide que si on a besoin d'une icône à ce moment-là, si par exemple le mec il tient un propos anti-italien et qu'il faut justifier une guerre contre l'Italie, peut-être que ça va être l'icône la note Jeanne d'Arc, tu vois.
C'est-à-dire que Zemmour va faire un truc de malade.
Et d'ailleurs Jeanne d'Arc aussi,
c'est
typiquement.
Juste pour recentrer sur le débat, ça ne vous a rien fait la première fois que vous avez publié quelque chose et que vous êtes passé à la télé ou à l'écran et des choses comme ça, et que on vous a reconnu ou que vos parents vous ont appelé ou que.
En plus, on a toujours une génération de retard dans ce truc de reconnaissance. Après, non, c'est-à-dire que t'es content d'être reconnu dans un truc qui n'est pas le média de ta génération.
La première fois, vous a interviewé pour un autre média, où vous êtes apparu en figuration pour n'importe quoi. Est-ce qu'une certaine manière, vous étiez genre, quand même, je suis rentré dans une certaine caste.
Moi, j'étais plus fier de moi quand j'ai travaillé avec Humanoïd, qui était publié en librairie. Enfin, c'est un magazine.
Ouais, papier. Voilà, papier, rappelle, papier. Des auteurs de Canard PC.
Ouais. Donc, j'étais plus fier de moi pour avoir participé à ce truc-là que quand je suis passé sur M6 dans un sketch débile sur le Golden Moustache, tu vois.
Mais t'avais ce côté, genre.
Et les amours.
J'ai plus ou moins.
Et les amours. Das Origins.
Begins.
Non mais c'est vrai que la partie
pourquoi ça t'a rendu plus fier que d'écrire sur
c'est vrai que non mais la vidéo ou le web, c'est vrai que ça paraît plus éphémère, c'est idiot, mais ça paraît plus éphémère que du papier imprimé, alors que Humanoïd, personne peut le trouver maintenant, tu vois.
Ouais.
Alors que la vidéo, elle est encore trouvable. Donc ouais, je sais pas, c'est un truc qui fait que quand c'est écrit, t'as l'impression que.
De toute façon, là, on parle vachement d'ego et de subjectivité, et pas du tout de objectivité, mais on a tous couru. Enfin, de près de loin, on a tous un peu rêvé une sorte de gloire et d'immortalité comme des pop stars ou des auteurs à grand succès, etc. T'as jamais voulu être un gros rappeur, avoir un album qui pète tout un jour quand t'étais dans le peura?
Non, parce que les Français sont débiles. Donc quand t'es un rappeur, non, mais quand t'es un rappeur français, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que tu tapes dans la rue avec des mecs, tu vois. Et moi, j'ai pas que ça à faire, en fait.
Prenne des balles.
Ouais, faut que tu prennes des bastos. C'est regarde Rof, tu vois. Bon,
regarde Sylvain au Havre.
Voilà.
Par exemple, tu vois.
J'ai une autre théorie sur la postérité / célébrité /
numérique
de qui on se souvient. Ouais. C'est un angle qui est plutôt statistique. C'est-à-dire que sur
8 followers sur 1000 sont entre 0 et 300.
Quelle que soit l'époque, sur une population donnée, une population de 100 personnes, eh bien, il n'y a que 1% ou 0,5% de gens dont on se souvient. Parce que c'est une fraction de la population mondiale. Donc, il y a 300 ans, quand il y avait 3 milliards d'êtres humains sur Terre, eh ben, il y a 100 mecs qui marquent une année, quoi. Eh ben, aujourd'hui, on est presque 7 milliards, ben, il y a peut-être le double de 100 mecs. Mais il ne peut pas y avoir plus de gens célèbres et qui passent à la postérité que cette fraction-là.
Et donc,
voilà, c'est une théorie.
Je suis pas sûr.
C'est une théorie, moi non plus.
C'est une théorie.
C'est tout. Parce que, étant donné le nombre de canaux de diffusion.
Une théorie que je laisserai à la postérité, dit le théorème de Palais.
Du coup, quoi que tu fasses
parce que si
pour devenir célèbre ou pour laisser des œuvres, etc., tu seras toujours moins célèbre que la personne qui est plus célèbre que toi. Tu vois, il y a un classement avant toi. Et toi, si tu arrives 31. alors qu'on retient que les 30 premiers, on se souviendra pas de toi.
Mais donc qu'est-ce, on est... qu'il raconte,
qu'est-ce qui fait qu'il est 31 surtout?
Bah, c'est la fraction, c'est, ouais, c'est la théorie de la fraction de la population.
Non, mais elle se tient,
je pense,
théorie
que... Non, parce qu'il y a un truc exponentiel en vrai, vu que
les
œuvres se multiplient de manière exponentielle.
Moi, je le vois dans d'autres domaines, c'est-à-dire que le cerveau humain, il peut retenir qu'un certain nombre d'éléments dans un même typologie de concept. Donc, c'est-à-dire que si je vous raconte, Scheherazade, si je vous raconte 300 histoires, là, quand je vous raconte la 301e, vous avez oublié la première. Donc, c'est pour ça qu'on peut, raconter des histoires à l'infini
comme
parfois.
La fille dans
et donc, en fait, il y a une saturation à un moment de. Je dirais même, elle est plus faible que ça. C'est-à-dire qu'on pourrait citer que 100 célébrités et c'est tout.
Tu vois, c'est-à-dire que dans la littérature française aujourd'hui, tu peux pas me citer 150 auteurs qui sont passés à la postérité. Tu vas me citer Victor Hugo, tu vas me citer Alexandre Dumas, tu vas me citer Marcel Pagnol et Céline. Alexandre Jardin.
Mais tu vas pas les tweets d'Alexandre Jardin,
j'espère qu'ils passeront
à la postérité.
Tu vas pas pouvoir me citer des auteurs qui étaient hyper célèbres ou à la postérité il y a 100 ans.
Oui, mais alors là, du coup, je reviens sur une autre discussion que j'ai qui s'en approche, la fameuse théorie des stars,
ouais,
où effectivement, à une époque, y avait le roi de la pop, il y avait le prince de la pop, il y avait ce que vous voulez, il y avait Madonna qui était une méga star globale. Aujourd'hui, il y a 20 millions de stars plus ou moins connues, et une armée de demi-people, et une sous-armée de donc en fait
de vedettes.
J'ai regardé le classement Spotify, je connaissais personne.
Et les semi-people, non?
Et les semi-people.
Et du coup, la base de célébrité se fractionne, ouais, entre tous ces,
voilà,
gens.
Donc, je pense qu'en plus, comme des messieurs, on atteint toute la postérité, mais c'est pas la postérité à laquelle on rêve. Parce qu'en fait,
t'as des bulles de postérité aussi.
Il y a deux choses pour la postérité. C'est être éternel, donc tromper la mort, c'est notre thématique.
Ouais.
Et deux, il y a un ego qui est de régner au-delà de ceux qui n'ont pas accès à une certaine postérité. Parce qu'encore une fois, la postérité est une forme d'élitisme. Puisque,
de survivance.
De survivance. On va en parler tout à l'heure avec Daz et Sylvain, sur la notion même de mort, est-ce qu'elle a encore de la valeur? Mais du coup,
notre débat est obsolète de toute façon, parce qu'on sera tous immortels dans 20 ans.
Donc là, on parle de désacralisation, et donc, encore une fois, vous vous en foutez aujourd'hui de savoir que vous allez quelque chose à vous survivre? Parce qu'on y a eu tous accès, que c'est normal. Enfin,
franchement, ça fait un peu chier.
Avant, c'était dur d'être publié.
Mais
Lisa,
si elle a un enfant, son petit Joël, il va sortir de son vagin et il va lui survivre. Non, mais c'est vrai.
C'est la postérité.
Je pense que psychologiquement, quand t'as. Non, mais imagine. Les gars. Imaginez votre bras, il vous survit.
Attends.
Votre bras, il est éternel.
Une vieille image.
Non, mais voilà, c'est quand même.
Pourquoi juste le bras?
Non, mais parce que vous avez un morceau, un membre, un truc qui vous sort du corps et qui va vous survivre, tu vois. Ça, je trouve psychologiquement, c'est incroyable. Nous, les hommes, on l'a pas.
T'as un bras qui sort du
vagin.
Pourquoi le bras?
C'était pour dire un membre. C'est comme si avait un morceau de votre corps qui vous survivait. Je trouve ça ouf.
Comme un ver solitaire, par exemple.
Mais ça, c'est juste la descendance, c'est pas la postérité.
Je vous jure que les hommes et les femmes, on n'est pas égaux face à la question de la postérité.
On t'a déjà dit des millions de fois qu'il y avait une partie de l'homme qui était aussi dans ce petit.
Mais oui, mais.
La femme.
Non, mais. Comment dire, c'est pas pareil. Vous avez vraiment un. Nous, les hommes, il n'y a pas un truc qui sort de notre corps avec une certaine. Dans une certaine violence, quand même.
On peut demander à la seule personne qui a eu un enfant ici.
Moi?
Oui.
Ouais.
Enfin, ta compagne.
Il l'a pas accouché, quoi.
Oui, non, mais j'ai quand même participé activement à son élaboration, je pense.
Franchement.
Ouais, ça a pas duré si longtemps que ça, hein, quand même.
Alors, c'est ignorer tous les secrets de la vrille mauricienne. Mais en fait, ce que tu dis, Fibre, je peux l'entendre, sauf que l'enfant que tu fais, c'est un enfant, c'est pas un bras, et que du coup, il est doué de sa conscience propre, et il peut parfaitement se retourner et te dire d'aller te faire foutre,
et toi, son père, sa postérité à lui.
Et à, en fait, suivre son propre chemin, comme toi, tu as fait avec tes parents, par exemple.
Non, mais je pense que psychologiquement, c'est traumatisant, la naissance. Et tu as l'impression
qu'il y a un truc qui n'a pas eu d'enfant.
Mais non, mais j'y réfléchis.
Il a juste peur.
C'est des théories de toute façon. J'affirme pas ça. C'est des théories. Mais chers auditeurs, puisque je me sens très seul autour de cette table, si vous êtes de mon côté, soutenez-moi.
Avantage tag.
On parlait de quoi avant qu'on parle du bras, du vagin, des fibres.
Hashtag bras vagin.
De la postérité.
De la postérité,
on
mais
de la fin de la postérité, de la désacralisation.
Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi, Lame, que tous autour de cette table, autant qu'on est, et beaucoup de gens sur Internet.
On est tous à la postérité, on a tous produit.
Ou un ego tellement important qu'on essaye tous de devenir une star dans notre domaine qui va perdurer après notre mort.
Mais en fait, ça
ne
mais va pas.
Mais on sera une star locale de notre
mais donc, ce sera une star locale, c'est ça. Bio, vous, bio et locale.
Donc, une selon star de vous, supermarché.
Attendez,
quoi.
Attendez. En fait, selon vous, là, quand, par exemple, on parlait de d'Hemingway, c'est-à-dire qu'au moment où Hemingway, lui, était publié, il y avait absolument personne d'autre qui essayait d'écrire un bouquin de son côté.
Non, il y avait très peu de monde qui pouvait être publié, en fait. À l'époque,
c'est beaucoup plus dur.
À l'époque, si tu regardes la production,
mais je suis pas sûr, justement.
L'accès aux outils de production était.
Mais pour imprimer un livre, c'était un fric monstre. C'est juste que tu pouvais pas, quoi. Même un magazine.
Tu savais pas écrire.
Oui, mais alors. L'impression et de l'édition, d'accord, mais il n'empêche qu'on ne sait pas quels sont, enfin, le taux de manuscrits reçus par les éditeurs de l'époque.
Bien sûr, mais du coup, exactement. Non, mais ça restait des manuscrits. C'est comme si ton tweet, il était en brouillon.
Voilà. Et que quelqu'un ait sélectionné ton tweet pour dire, ah, on peut publier sur Twitter. Là, aujourd'hui, il n'y a pas de sélection.
Là, tu fais publish.
Les gens qui écrivaient, là, je comprends très bien que beaucoup de gens voulaient écrire, mais des gens qui pouvaient publier leurs disques, ou qui pouvaient publier leurs mémoires, ou qui pouvaient publier leurs travaux, donner leur nom à un bâtiment, des choses comme ça, ils étaient très peu.
En fait, je pense que vous oubliez simplement un truc, c'est que c'est pas le tout de publier, il faut juste qu'on te lise derrière, en fait.
Exactement.
Mais oui, mais donc.
Non, il faut déjà être publié avant qu'on te lise.
Mais t'avais très peu de couches, t'avais quelques élus qui étaient publiés et t'avais encore moins d'élus qui étaient reconnus et qui rentraient à la postérité, comme, je sais pas, Céline, Shakespeare, Madonna, Michael Jackson, ce que vous voulez. Donc c'était très peu. Effectivement, comme dit Sylvain, on peut compter un nombre limité, mais si on compte les plus grands de la pop d'il y a 20 ans, on peut tous les s'en rappeler. Si on compte tous les stars de la pop actuellement,
aujourd'hui, c'est chaud.
Il y en a beaucoup trop parce que l'accès a fait que.
Tu peux faire un morceau.
Oui, mais qu'est-ce qui nous dit qu'il y a 20 ans, en fait, c'était pas aussi la jungle et qu'on l'a juste oublié, tout simplement. Je veux dire. Là, quand on en parle maintenant et qu'on regarde dans le rétroviseur, on a l'impression effectivement que dans les années 80, il n'y avait que Prince, non, Michael Jackson et Madonna.
En
mais en fait,
de
si on
de
y
médias,
était vraiment, on verrait tout ce qui sortait à l'époque.
Comme dit, comme
en termes de nombre de médias et de canaux, quoi.
Le nombre de médias de canaux était ridicule par rapport à aujourd'hui. En gros, il y avait 3 stations de radio, 1 chaîne de musique, c'était rien. Donc,
oui, ça, sur le. C'est-à-dire qu'en fait. Sur les canaux de diffusion, je suis d'accord, mais tu sais très bien si tu faisais du crate digging chez les disquaires, que t'as des centaines et des centaines et des centaines de trucs qui sortent des années 70 que t'as
rien
jamais
qui
rien
dans la postérité.
Mais rien par rapport.
Bah oui, non, mais donc surtout, la production était là, c'est ça.
Et rien par rapport aujourd'hui, en fait.
Et
qu'en fait, si tu compares aujourd'hui avec
demain.
SoundCloud et Spotify et Bandcamp pour parler que de musique, ou YouTube.
Ouais.
En fait, c'est fois 1000, fois 10 000 le nombre de gens qui se sont publiés avec leurs œuvres sur un média par rapport à avant, en fait, puisqu'ils s'autopublient.
Dans les années 80, on n'aurait pas eu Gangnam Style, par exemple. Parce que, tout simplement, la Corée, c'était un monde qui existait même pas pour nous.
Ah, la Corée, le pays, pas la chorégraphie.
Et du coup, quels sont les critères aujourd'hui pour être dans la postérité numérique entre
D'après Mélissa, c'est la disruption.
C'est la disruption.
Il faut casser quelque chose pour qu'on se rappelle vous, parce que produire quelque chose n'a plus aucune valeur, en fait.
D'après Fibre, c'est le consensus sociétal.
Je pense que je rejoins Fibre sur.
Bien. Mais vous verrez que vous viendrez avec moi, surtout pour la théorie du.
Pas sur le bras, sur le vagin, tout ça, là, mais sur le consensus sociétal, je pense que oui.
Oui, il y a une conjonction de ça, mais en vrai, c'est juste qu'il faut.
Mais c'est un peu comme Idriss Aberkane. C'est un consensus, ce mec. C'est pas quelqu'un qui est légitime. Tu en parlais dans ton tweet.
Effectivement, c'est un imposteur.
Après, je sais pas le dire, mais c'est des gens qui ont dit.
On peut développer
Idriss Aberkane, le mec du biomimétisme. Ok, c'est bon. Voilà, c'est gagné. Moi, ça me va. Très bien.
Il rentre peut-être à la postérité comme un escroc.
Qu'on l'oublie, ouais. Très bien. Comme qui d'autre?
Arrache d'Arambach.
Non, arrêtez. On va pas.
Dans le cas, on l'oubliera pas, lui.
Oh oui.
Non, mais il y a beaucoup de youtubeurs qui sont des porte-parole aujourd'hui de certains domaines scientifiques, politiques ou même des médias. Et comme ils sont populaires, ils ont été autoproclamés.
Tout le monde est youtubeur, puisqu'il y a des centaines de milliers de youtubeurs autopubliés. Donc, encore une fois, tu rentres dans la postérité normalement quand tu publies quelque chose à te survivre en théorie. Et on a parlé de ton héritage plus tôt. Mais aujourd'hui, ça ne suffit plus pour être rentré dans la postérité, puisqu'elle n'a plus de valeur en tant que telle. La théorie de la postérité n'a plus de valeur. Maintenant,
vous pensez que dans 30 ou 40 ans, on pensera à une célébrité dont l'œuvre aura été strictement du YouTube ou pas?
Est-ce que Casinestat va être à la postérité parce qu'il a inventé le format du vlog, par exemple?
Je pense.
Okay. Est-ce que Cyprien va être à la postérité parce qu'il a fait la blague du nugget dans les frites?
Non, mais je pense que le sketch de Cyprien.
Normal, déjà.
Je pense que quelqu'un comme Cyprien restera à la postérité parce qu'il est assez gros aujourd'hui. Ouais. Il a influencé une génération entière.
En France.
C'était la star d'une génération entière. C'était le personnage le plus préféré d'une génération entière de Français. Je pense qu'il sera à la postérité.
C'est notre Johnny Hallyday.
Après, est-ce que des youtubeurs qui nous paraissent gros mais qui ont fait ça, je sais pas, genre Matt Podcast, est-ce qu'ils resteront à la postérité? C'est moins sûr.
Dans les mathématiques, non, je pense pas.
Dans le reste, non plus, d'ailleurs. Ou la postérité des imposteurs avec Idriss Aberkane.
On va finir faire un petit club.
Attends, Matt Podcast, ce qu'il a fait en 2016-2017, c'est ce que Johnny Hallyday a fait pour construire sa carrière. C'est-à-dire prendre des textes américains, les traduire, les faire en français et ramasser les likes.
Tu parles de Thomas Sisley, non?
Bon, allez, bref, on arrête. Ça tacle à la gorge.
Bon, en tout cas, vous nous direz ce que vous en pensez sur le forum. Est-ce que vous vous êtes senti ému la première fois que vous avez publié ou que vous avez été publié ou que vous êtes passé dans un média ou est-ce que vous en foutez aujourd'hui complètement puisque c'est la norme de tout le monde ? On verra bien. Merci Mélissa et on attaque la seconde FAQ.
FAQ.
Ça parle de bras et de vagin ?
Non. Non.
De jambes et de vagin peut-être ?
On ne parle ni de bras ni de vagin. Alors attention. Une question de Arzel sur Twitter. Si Studio 404 glissait vers une idéologie d'extrême droite, n'est-ce pas ? À quoi ressembleraient les chroniques de l'émission ?
J'ai vu cette FAQ et je me suis dit, elle est très marrante, il faut qu'on la sélectionne. Mais,
du, bah,
coup, mais du coup, je n'ai pas préparé de réponse.
Donc, si Studio 404 devenait un podcast de la société numérique d'extrême droite, à quoi ressembleraient vos chroniques ? Alors, chacun fait sa chronique ou chacun fait la chronique d'un autre ?
Alors, j'ai une...
Oh putain, c'est dur.
Ah, Fibre, c'est bon. Fibre est très inspiré. Hein. Fibre, il n'a pas de souci.
J'ai un début de réponse qui est en fait... Je crois que j'ai une réponse incarnée. C'est Henri de Lesquen.
Ouais.
Qui est un conte d'extrême droite.
On dit Lesquen, on dit pas
Lesquen. Lesquen ou...
Fils de pute.
Non mais...
Oh putain,
attendez, c'est facile
attendez,
à prononcer.
Il y a une vraie question à se poser, c'est est-ce que ce mec, il est premier degré ou second degré ?
Et moi, je pense que c'est un troll, mais...
Est-ce que c'était une marionnette de 15-18 ?
Et je trouve que ça pourrait être typiquement un extrême droite de qualité. Voilà.
D'accord. Voilà. Un extrême droite de qualité.
Moi, en tout cas, c'est ce que je ferais. Et si j'avais fait ça, je dirais, putain, j'ai vraiment bien fait. Voilà.
Très bien. Chronique de film sur Henri de Lesquen.
Moi, je pense que je parlerai de ce phénomène des ingénieurs indiens.
Oui.
Et de comment ils vont précipiter l'Occident à sa perte.
Très bien.
C'est-à-dire que je déplacerai la menace du Moyen-Orient vers l'Inde, en fait. Ce qui est plutôt sympa.
Comme très bien.
Eh bien, moi, au lieu de faire une chronique sur l'Internet décentralisé, je ferai une chronique sur la souveraineté de l'accès Internet étatique, n'est-ce pas ? Voilà. Et qu'il y aurait bien des comptes certifiés par couleur.
Avec une fleur de lys.
Par couleur. Par couleur, voilà. J'en dis pas plus.
Une cocarde.
Le truc affreux. Un compte de souche. Mélissa, si notre émission virait extrême droite, quelle serait ta chronique pour une société numérique d'extrême
Mange
droite
ton porc.
Mange ton porc. Et putain, Fibre.
Alors, donc, en tant que journaliste, je crois que je ne ferai pas de chronique.
Ah non, t'es obligé, Mélissa. Mélissa, il faut.
Déjà, t'es plus journaliste.
Déjà, t'es plus journaliste, t'es entrepreneuse, donc t'as plus une race.
Je suis productrice. Non, c'est un truc sur le harcèlement en ligne, parce qu'il y en a beaucoup sur les forums d'extrême droite.
Bah sur les gauloiseries, alors sur le.
Ouais.
Sur
oui, mais tu soutiendrais un peu
comment sur les gauloiseries.
Défendre les gauloiseries.
Non, je suis désolée. Non.
Ah non, mais attends, mais on est émission d'extrême droite.
On est émission d'extrême droite.
Bah oui, mais j'en ferai pas partie. Je quitterai l'émission. Bah voilà, là, je m'en vais.
Là, 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 là.
Elle joue pas le jeu, quoi.
T'as bien fait une mauvaise blague sur des Chinois une fois dans ta vie, merde.
Quoi ?
Ce n'était pas une blague.
Hein ?
Et alors, est-ce que tu peux nous remplacer par une chroniqueuse d'extrême droite ?
Et qu'est-ce qu'elle ferait comme
Eugénie Bastier ?
Elle n'est pas extrême droite, Eugénie Bastier.
Elle est extrêmement conne.
Elle est extrême
conne. Oh là là, mais deuxième insulte, mais la MUA, unleash la MUA 1825, spirit, la MUA.
Quel grand, Eugénie Bastier, quel grand moment.
Moi, justement, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de tendresse pour elle. Depuis qu'effectivement, elle s'est fait.
Arrête d'as, quoi, ça suffit.
Non, mais depuis qu'elle s'est fait tacler bien violemment par Clément, je sais plus son nom.
Ah, c'est un beau tacle. Hein.
C'était très joli.
Depuis en avant, c'était au niveau des genoux.
Depuis, je la trouve éminemment sympathique.
Il s'est mis à sa place en disant oh putain, j'aurais pu faire pareil.
C'est chaud. Ah ouais, non, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Faut pas dire n'importe quoi avec ce monsieur. J'ai bien retenu. On l'invitera un jour, ça sera.
Eugénie Bastier ou le monsieur ?
Le monsieur. Non,
ah bah, Bastier, t'es en danger, je te rappelle, Daz, parce que tu piffes pas mal. Hein,
non, justement, là, je resterai complètement dans la safe zone. Non, il faut savoir raison garder.
Eugénie, si tu nous écoutes, va te faire foutre. Allez, on attaque tout de suite la troisième chronique, et ça va être un duo. C'est Daz et Sylvain qui discutent ensemble au KLM de la mort ou de la non-mort.
Au KLM. Sujet numéro 3.
L'immortalité, vous la voulez en numérique ou en organique ?
On se remarche, il y a un petit choix. Bonjour messieurs.
Yo Daz, ça va ?
Ça va et toi ?
Ça va, j'ai besoin d'un petit avis sur ma config.
Vas-y, balance.
Mon enveloppe naturelle arrive en fin de cycle biologique. Je vais devoir, comme d'hab, soit switcher, soit prolonger. Mm-hmm. Et j'hésite un peu parce que j'ai vu que le nouveau traitement de Calico marchait vraiment pas mal. Tu peux maintenant prolonger quasiment 500 ans de plus, ton corps, sans dégradation biologique. Et en plus, il y a une offre avec Free, je ne sais pas si tu as vu en ce moment, tu amortis assez vite. Toi, si je ne me trompe pas, tu es sur Neuralink depuis 2 ou 3 ans. Mm-hmm. Tu n'as pas hésité un moment avant de passer full numérique comme ça ?
Ah mec, Neuralink, J'étais sceptique au début, mais depuis qu'ils ont changé leur techno, ça n'a plus rien à voir. Déjà, on est passé en zéro lag. Zéro lag. Ouais,
ça, c'est un peu la base. Zéro lag.
Ensuite, ça a quand même un peu plus de gueule, tu m'excuseras, hein, d'être dans les réseaux que sur les réseaux, comme vous là, tous les moldus. Les gens, ils pensent souvent, tu vois, c'est normal aussi un petit peu, mais ils pensent souvent à la perte de leur corps, mais jamais à ce que tu peux gagner en le faisant. Tu vois, par exemple, plus besoin d'aller aux chiottes, plus besoin de te nourrir pour ne pas clamser. Maintenant, je mange pour me faire plaisir, mec, vraiment. Plus besoin d'appart, pas de vêtements, pas de mobilier, rien. Pas de passe Navigo à 132 000 euros TTC. Le monde est littéralement à portée, tu n'as qu'à tendre tes bites.
Ah, mais on a l'Hyperloop hein, maintenant, tu sais.
Avec tous les outils à dispo, Hyperloop, ça aussi on en parlera, je peux simultanément converser sur tous les réseaux tout en rattrapant les séries et en jouant en ligne. Tout ça en même temps. Bon, j'avoue, j'ai quand même mis en place deux ou trois bots ici ou là pour me libérer un peu de temps. Mais pour les gens d'en face, c'est totalement transparent. Neuralink, c'est le futur.
Ouais, je comprends. Mais en même temps, tu me parles de plus manger, tu me parles de plus aller aux chiottes. Ça te manque pas les sensations d'un corps, là ? Le toucher, l'odorat ? Je sais pas, les rayons du soleil sur ta peau. Je sais que tout est hyper bien simulé avec le Neuralink, mais tu connais la théorie depuis Matrix, hein, ce film vintage.
Allons.
Quand on sait que le steak que l'on mange n'est qu'une suite de 0 et de 1, bah, il a pas la même saveur. C'est comme les mecs, tu sais, à l'époque, qui préféraient les vinyles au MP3. Là, je comprends que tu sois dans un San Junipero idéal, hein, rendre hommage à la série vintage de Black Mirror. Mais du coup, il y a un peu de perte comparé à la vraie vie, non ? Et puis, quand ton corps il est plus contenu dans un réceptacle naturel comme moi actuellement, quand tu vis dans le cloud et que tu as accès à tout le stockage et la puissance de calcul que tu veux, quand toutes tes réflexions et tout ton cerveau il est augmenté par des algos hyper puissants, est-ce que tu as vraiment toujours l'impression de te sentir toi ?
Oui. Et je vais même aller plus loin, tu vois. Au contraire, en fait, t'es réellement toi pour la première fois de ta vie, une fois que tu as quitté ton enveloppe charnelle.
Genre.
Si, parce que avec ton enveloppe charnelle, il y a quand même 2-3 concepts physiques un poil relous, comme le risque de mourir ou la gravité. Tu vois, moi, par exemple, perso, je me suis toujours considéré comme le meilleur basketteur du monde.
Ah oui, j'avoue.
Tu vois, un basketteur hors du commun. Bon, avec mon corps, c'était un peu compliqué. Je pouvais pas jouer à tous les postes. Voilà, tu vois, souvent j'étais sur le banc. Depuis que je suis sur le réseau, depuis que je suis Digit, je suis enfin Michael Jordan. C'était un mec un peu connu à la fin du 20e siècle. Je peux attaquer les rouleaux à Hawaï comme Kelly Slater. C'était un surfeur un peu connu à la fin du 20e siècle. Je peux faire par exemple New York, Los Angeles en vélo, sans relais et sans ravitaillement comme Locan.
Ah oui, je connais.
C'était un mec aussi un peu connu au début du 21e siècle. Enfin, bon, lui, Locan, il a pas vraiment fait, mais en même temps, quand on y pense, il a carotté personne. Il avait juste 150 ans d'avance sur les limites de son propre corps, c'est tout. Et je fais tout ça en conservant les sensations propres aux cinq sens. J'ai juste supprimé, tu vois, la douleur sur l'échelle qu'on connaît. Je m'arrête à 5. J'accepte que ça picote un peu. J'ai pas envie de douiller pour rien. Donc ouais, là, tu vas me dire, bah oui, mais même si t'as plus ton corps, t'es plus toi-même, et autre lieu commun du même genre. Mais les augmenter, là, les mecs que tu vois déférence, plutôt. Leur quête pour la vie éternelle, là, ça m'étonnerait qu'une fois arrivés à 600 ans, ils soient encore eux-mêmes.
Ouais, je sais pas trop.
Et la Terre, mon petit gars. Est-ce que tu as pensé à la Terre ? Ton existence charnelle, ça prend de la place, ça génère des déchets, ça surcharge les réseaux de transport, ça pollue. Quand t'es digite comme nous, tu peux choisir d'être hébergé dans un data center certifié Green ISO 9012. Il y a bien bon les Golemons du mouvement Data Call qui se sont tous langés dans un data center bengalais qui tourne au charbon juste pour faire chier. On en a toujours eu, mais rien ne t'empêche toi d'œuvrer pour la planète en choisissant, je sais pas, de te loger par exemple à Shenzhen, capitale mondiale de l'écologie depuis maintenant 20 ans.
Ah bâtard, j'avoue, tu m'as bien baisé sur l'écologie là. Mais tu m'as parlé de douleur, moi ça me fait penser. Du coup, tu peux pas vraiment mourir. Alors que dans un corps physique, tu peux, je sais pas, encore gérer un accident de voiture autonome. T'as ce petit frisson de la blessure, de la détérioration. Tu peux perdre un bras dans un vagin. Bref, je sais pas. Mais finalement, pouvoir mourir, est-ce que c'est pas ça, se sentir vivant ? Vas-y, répète ça.
Pouvoir mourir, est-ce que c'est pas ça se sentir vivant ? C'est pas une chanson de François Valéry, ça ? C'était un chanteur connu au XXe siècle. Non, mais en fait, je réponds juste à ta question en te rappelant pourquoi tu me parles. Parce qu'à la base, c'est juste que tu veux pas mourir, on est d'accord. Donc là, tu me parles d'accident en voiture autonome. Tu sais bien que c'est impossible, sauf si c'est une Tesla. Et bon, voilà. Rest in peace, Elon. Non, franchement, je comprends pas en fait la démarche. Pour moi, il n'y a pas de. Tu vois ce que je veux dire ou pas ?
Okay. Autre chose, moi, ce qui m'embête beaucoup. En termes d'image, en faisant partie des full digits comme toi là, c'est que tout le monde s'accorde à dire que vous êtes des gros cons, arrogants et condescendants. Je sais. Not all digits. Hashtag not all digits. Ok. Mais bon, je lis la presse. Vous avez quand même un discours d'oppresseur, les gars. Alors, bien sûr, on n'est pas sur le même plan métaphysique, donc on n'a pas les mêmes préoccupations, blablabla. N'empêche, vous devriez faire un petit peu gaffe. Moi, je me sens quand même vachement plus proche de mecs comme Peter Thiel ou Sergey Brin, ben oui, qui ont réussi à construire des communautés simples et altruistes basées sur des valeurs de partage et de bienveillance. Ça a été des FDP jusqu'à ce qu'ils découvrent comment vivre éternellement. Ça, je te l'accorde. Mais maintenant, ils sont quand même beaucoup plus cool. Toi, avec ton Neuralink inventé par Musk, c'est une autre histoire. C'était facile de dire « je mourrai sur Mars », alors qu'il savait très bien qu'il uploaderait son cerveau dans le cloud. Tu vois, son omniscience, le fait d'être connecté partout, tout le temps, de tout voir, bah moi, ça me fait un peu flipper.
Mais l'arrogance, Sylvain, quand il pense, c'est de penser pouvoir stopper les outrages du temps avec la technologie. Ton corps, il a une durée de vie qui est finie. La nature est ce qu'elle est, tu vois, c'est pas avec 500 ans ou 1000 ans d'avancée de la médecine que tu vas contrer 200 000 ans d'évolution de l'espèce humaine. Tes Thiel et compagnie, là, ils se sont calmés, ok, mais oublions pas qu'à la base, c'était quand même des putains de vampires 2.0, ça se disait aussi au XXe siècle, au XXIe siècle. Tu vois, les mecs qui se font des sessions de transfusion sanguine avec des jeunes en bonne santé, moi, je vais te dire franchement...
Des rumeurs, bien sûr, parlons-en des rumeurs.
Non, je vais te dire, le meilleur moyen de vivre au-delà de la date de péremption de ton corps, c'est de t'en séparer. Ta personne, c'est bien plus qu'un amas d'os, de chair, relié entre eux par des muscles, tu le sais. Les numérusés, nous, on est humbles. On ne tente pas de contrer la nature, on est pragmatique, on mène un combat là où on sait qu'on peut le gagner. Et contre la nature, tu ne gagneras jamais ton combat, mec. Musk t'a bien compris. Bon, je te rassure, il était déjà complètement con avant d'être numérisé.
C'est l'argument naturaliste.
Et de toute façon, je vais te dire un truc, puisque a priori, les frileux dans ton genre, les pleutres, comme on vous appelle nous, les numérisés.
c'est ça.
Les pleutres dans ton genre sont la cible, justement, toute trouvée pour une entreprise qui a l'habitude de plutôt s'orienter vers les Golemons, c'est Apple. Apple qui prépare un truc qui va te permettre, à toi et à tes semblables, de switcher plus facilement. Tu sais, comme à l'époque où quand t'achetais un Mac, il te permettait quand même d'installer Windows dessus au cas où t'es pas trop sûr, tu veux revenir en arrière, etc. Et là, en fait, ils vont sortir un corps synthétique qui va permettre au charnel de passer à la digite, comme moi, et ensuite d'en revenir avec un corps dans lequel tu pourras t'uploader si t'as envie de faire des trucs de charnel, comme par exemple, je sais pas, ouvrir un compte bancaire à la poste ou prendre la ligne 12 aux heures de pointe, tu vois, voilà.
J'ai vu ce truc, mais d'ailleurs, ça m'intéresse, et je sais pas si t'as vu, il paraît même que c'est Johnny Ive qui va présenter la keynote dans un corps synthétique, copie conforme de Steve Jobs.
Oui, bon, bah c'est Johnny Ive, ça, tu peux pas... Oui, bah, c'est le naturel, tu vois, c'est... Voilà.
Mais tout le monde s'y met, là, parce que j'ai lu dans TechCrunch, ça existe encore, que Uber va sortir un truc similaire dans quelques mois, des corps de synthèse en libre service, dispersé à travers le monde, que tu pourras rejoindre à la demande. Apparemment, ils vont commencer avec un abonnement UberX, avec des jolis corps, mais un petit peu cher. Et après, ils vont proposer un Uberpool. Tu partages les frais, mais tu partages aussi le corps de destination. Donc, faut juste gérer avec les mecs avec qui tu tombes. Tu sais, comme à l'époque des voitures en libre service à Paris, dans les années 2000, où tu pouvais tomber dans une voiture où le mec avait fumé 20 clopes et mangé 3 kebabs. C'était pas ouf en termes d'expérience.
Ouais, alors... Uber. Tu vois, depuis qu'ils ont disrupté le système gouvernemental du Moyen-Orient, on sent bien qu'ils cherchent d'autres modèles économiques pour subsister. Alors, leur idée, elle est pas idiote. Ça va certainement, parce que c'est Uber, ça va générer des effets de bord dans tous les sens. On va encore nous casser les bonbons à dire qu'Internet force le monde à évoluer beaucoup trop vite. Ils disaient déjà ça pour l'hélico-partage en zone urbaine. Tu vois bien comment ça a fini. Enfin bon, tout ça, c'est des considérations du passé. Moi, perso, j'embarque dans 4 mois dans la prochaine sonde qui est censée aller visiter la région transneptunienne du système solaire. Les gens de l'ESA, depuis qu'ils ont racheté la NASA, ils ont super bien taffé leurs algos de compression. Du coup, on part avec une copie d'Internet qui tournera dans la sonde en réseau local pour un trip de 15 à 30 ans. On ne sait pas trop, en fait, mais pour nous, ça ne change pas grand-chose. Et vu qu'on va utiliser aussi les ondes gravitationnelles, je t'enverrai des snaps pendant le trajet. Puis on se captera à mon retour. Je connais un petit coin sur un serveur Sri Lankais, mon gars. Pouh.
30 mecs sur un internet local dans une sonde pendant 30 ans, ça ressemble un petit peu à Pornhub, ton truc.
Je suis désolé, mais pour moi, t'es
trop loin. Je vais continuer à vivre un petit peu dans mon monde analogique quelques centaines d'années. Je vais voir comment évolue la tech. Et puis, je pourrai toujours me décider plus tard. Mais tu vois, toi, t'es parti tellement loin que j'ai peur que tu finisses comme Fibre Tigre. Je sais pas si tu te souviens, lui, non seulement il a abandonné son corps, mais il a aussi disséminé son esprit dans le réseau. Il
notre
a
maître à tous.
Abandonné son identité pour faire partie du grand tout. Voilà, il a tout dispersé. Je vais tenter de le summon pour avoir son avis. C'est pas sûr qu'il réponde, hein, c'est une fois sur
Il nous écoute de toute façon.
Mais j'imagine, Fibre, que tu as tout entendu, vu que t'es omniscient. Tu en penses quoi, toi, de mon hésitation?
Machine à laver Arcachon.
pour la postérité.
Postérité fou.
Machine à laver Arcachon.
Oh, ce qui n'était pas une vraie fibre, une citation de Fibre Tigre.
Non, non, pas du tout. Non.
Rappelons.
Non, mais c'est non, ça mais qui la... est resté.
C'est pas lui qui disait être ou ne pas être.
Non. À la fin, en faisant la synthèse de toutes les connaissances du monde, il en est arrivé sur machine à laver Arcachon.
C'est la réponse.
Le sens de la vie.
C'est notre 42 à nous.
C'est ça.
C'est notre 42 à nous. C'est effectivement la réponse ultime. Alors, il y a Sylvain qui a un corps augmenté. Mais qui a quand même un corps physique.
Tellement donc, de choses à dire.
J'imagine un corps physique.
Un hipster.
Des ghost organes, de la cybernétique, des améliorations des nanomachines. Mais il tient dans ce corps physique.
Un cœur qui tourne sur un seul ventricule.
mais overclocké en tout cas.
J'ai une question pour Daz, IA informatique.
Ouais.
Daz, attends.
Vas-y. Non, tu voulais dire quelque chose ?
Ah non, mais je voulais juste résumer la position de Daz, mais tu voulais peut-être demander un truc à Daz.
Daz, est-ce qu'un homme est toujours un homme s'il fait plus caca ?
Vraie question.
Parce que c'est toi qui le. Toi, tu t'as dit, ah, moi je vais plus aux chiottes. Hein.
Ouais. Ah oui. Et plus de besoins physiologiques.
Ouais. Donc, on rappelle que Daz, lui, c'est 100% numérisé.
100% numérisé comme.
Il s'est uploadé dans le cloud, comme dans. Notamment dans un fameux épisode de Black Mirror qui s'appelle San Junipero.
Non, je suis pas d'accord. Alors, avec
pas exactement, mais bon, oui. dans l'idée.
San Junipero, c'était un purgatoire.
Oui. Dans l'idée, tu étais dématérialisé.
Oui,
en tout cas,
100%. Full démat total.
Full démat total.
Un enfant des réseaux. Et donc oui, pour répondre à ta question, oui. Je pense que...
Faut-il faire caca pour sentir vivant Daz ?
Je pense sincèrement que si demain on te propose de continuer ta vie sans avoir à chier, je vois pas pourquoi tu refuserais, parce que ça n'a aucun
intérêt. Je pense qu'on devrait faire un sondage Twitter.
Mais du coup, si t'arrêtes de chier, quand est-ce que tu vas sur Twitter ?
Mais moi, c'est pendant que je travaille.
C'est vrai que c'est la porte ouverte à plus de questions. Une fois
que je suis dans le cloud, je suis à la fois sur Twitter et en même temps en train de faire autre chose.
Je pense que la question est mal posée. Nous allons sur un faux débat parce que l'idée de cette chose-là, c'est pas de se sentir vivant.
Oui.
C'est de se sentir exister.
Oui.
C'est pas de se sentir être un être humain. C'est de se sentir être soi.
Là, tous les terminales, elles, ont levé les oreilles.
Puisqu'on est dans la philo, j'ai une autre question. Donc, on a un Daz qui est en chair et en os, qui fait caca. Et après, on a un Daz IA informatique, d'accord ?
Ouais.
Et on va dire qu'il y a un processus magique qui fait qu'il s'upload.
Ouais.
Et à un moment, le Daz biologique, qu'est-ce qu'on fait de lui ?
À la benne, mon cas.
On le tue, c'est ça ?
On l'enterre.
À la benne, on l'enterre, on le donne à bouffer aux autres humains qui restent.
On a fait un coupé-collé.
Donc, ouais. Mais Daz, si ça se passait, s'il y avait la machine là, qui était sur la table, on serait obligé de te tuer. Tu n'aurais pas un petit problème avec
non,
ça ?
Non, parce que tu tuerais un corps inerte.
Ouais. Tu tuerais un bout de viande.
Non.
On a vidé son cerveau et on l'a mis.
Non, mais attendez. Ça marche pas. Enfin, il n'y a pas une continuité de conscience. C'est-à-dire que c'est une duplication.
Ah, mais si, on est dans le futur, mon gars.
Ah, d'accord. C'est de la magie, c'est pas de la science-fiction.
Bah si, c'est de la science-fiction.
C'est de la magie science-fiction.
On peut en parler plus en détail de ce que dit Philippe, parce que ça revient à des débats, notamment sur la téléportation.
Ouais.
Tout à fait.
Mélissa, qu'est-ce que tu préfères entre... on a bien compris que dans cette dernière chronique, on arrive à un moment où on a déjoué pour de vrai la mort, et pas que en postant des vidéos YouTube. Là, on est allé plus loin que ta chronique.
C'est bon, on est resté en fait. On n'a pas besoin de postérité.
Il n'y a plus besoin de postérité.
On est toujours là.
La mort n'existe plus. Mais est-ce que tu préfères rabibocher sans cesse ton corps et remplacer des parties avec des parties synthétiques ou artificielles, ou changer ton ADN, je ne sais plus, il y a 20 millions de choses en ce moment contre l'aging et tout ça qui se passe en ce moment, ou... te dématérialiser complètement et sauter le pas comme Daz.
Ah non, moi, je garde l'enveloppe, les amis.
Mais alors, encore une fois, je pense que les gens n'ont peut-être pas capté le truc, c'est que je parle de ça dans un monde où tu as une faculté à rentrer en communication avec à peu près n'importe qui, n'importe quand. C'est-à-dire que t'es pas... Si je suis pas là, c'est comme si... Enfin, si j'étais numérisé, c'est comme si je vous parlais depuis Skype, mais en haute qualité.
Oui, t'es partout.
C'est-à-dire que je suis partout et nulle part, en fait.
Du coup, tu peux avoir la même sensation que quand tu fais l'amour, mais est-ce que tu peux avoir la même sensation ? Non.
Bien sûr que si.
Mais là, on revient à la métaphore du steak.
Les programmes sont simulés à la perfection, c'est la matrice. Tu vois.
Je peux même avoir 3 sgegs. Je fais ce que je veux.
Je peux chier avec un des sgegs.
Je suis protéiforme.
C'est l'affaire d'une ligne de code.
Et l'un des sgegs peut devenir un bras.
Voilà. tu peux tout amplifier.
Le fameux bras d'enfant.
Oui, mais du coup, t'as le. Ouais. Non,
en fait, il faut vraiment visualiser.
Un truc d'hormones.
Non, mais là c'est vrai. Là, c'est vrai.
Quoi,
non, mais voilà. Mais ça, il faut qu'on ait un côté gymnastique pour te dire que tu ne vas pas sentir la simulation. On est d'accord.
Mais oui, à la Matrix, tu vois.
Voilà.
Mais tu sauras que tu es dans la simulation.
Quand t'es dedans, t'es dedans. Par contre, t'es conscient d'être dedans.
Oui, t'es conscient d'être dedans, mais t'as plus de différences sensorielles. Si on appelle ça des différences sensorielles.
C'est la vie comme vous la vivez actuellement. La seule différence, c'est que je suis pas dans un appartement bourgeois de Paris 11. Je suis dans un data center à Shenzhen, capitale mondiale de l'écologie.
moi, j'ai besoin de la période transitoire, je pense.
Eh ben Apple,
clairement, je peux,
le petit corps synthétique.
Je peux y arriver.
Donc, mais, vous voulez qu'on ubérise des corps synthétiques, c'est ça?
Ouais.
C'est vraiment ça que vous voulez?
L'ubérisation, je suis pas sûr quand même. Ça va être un sacré merdier.
Juste avant que Fibre prenne la parole, Sylvain, je voulais revenir sur ton point de vue parce que t'as hésité même pendant l'écriture de la chronique à un moment. Alors moi, j'ai eu un peu de l'autre côté.
J'ai commencé la chronique en full digit.
D'accord.
Parce que j'avais plus d'arguments et parce que c'est ce que j'ai envie au bout d'un moment. Enfin, j'ai envie de pousser mon corps physique dans les retranchements. J'ai quand même envie de faire un petit peu de transhumanisme, etc. Mais je sais qu'au bout d'un moment, il faut que je fasse le pas.
Donc, t'es d'accord avec Mélissa, il y a cette sorte de période transitoire,
ouais,
qui est le transhumanisme, qui sont des corps augmentés qui vont tromper la mort, ouais, mais avec des corps physiques, avant de faire le grand saut.
Mais par contre,
je
suis d'accord avec Daz pour dire que le grand saut, c'est un niveau supérieur de l'existence, quoi.
Ouais.
C'est l'évolution humaine,
c'est la mutation
ultime.
De l'humanité.
Voilà. Mais peut-on se sentir encore humain quand on est omniscient, du coup,
mais
comme
on se sent plus humain. Mais on
qu'est-ce,
est
que, qu'est-ce que l'humanité, en fait?
On n'est plus humain.
Est-ce que les humains, non, mais est-ce que les humains qui se nourrissaient de mammouths à l'époque avaient, enfin, se disaient que plus tard ils pourraient évoluer en autre chose qu'ils étaient,
avoir
qu'ils étaient
des montres connectées, par exemple.
Il voit un mec qui passe en overboard et qui n'aurait le Bluetooth.
Ouais, mais tu vois, acheter un vélo, enlever les vitesses,
qui pense à son fil, accroché au sac à dos.
Acheter un vélo, enlever toutes les vitesses qui permettent de limiter les efforts et n'en mettre qu'une seule pour bien se faire chier dans Paris, tu vois. Est-ce que les mecs s'étaient dit ça? Non, je pense pas. Donc en fait, on sait pas. Le numérique nous offre peut-être un moyen justement de tromper toutes les angoisses existentielles qu'on avait depuis toujours.
Question qui n'a pas de réponse. Est-ce qu'on ne devient pas fou si on n'a plus de limites?
Ben, demande à Peter Thiel.
Alors, c'est la fameuse rumeur que Peter Thiel, du coup, on le sait qu'il est obsédé par le transhumanisme et l'immortalité. Enfin, pour lui, la mortalité est quelque chose de très chiant, je crois qu'il a dit. Ouais,
la parodiosis, il fait de la parodiosis ou parosiosis, c'est quand tu transfères du sang de jeune homme,
de jeune homme
qui ne fume pas, oui, des cellules jeunes, quoi.
C'est alors, génial.
Est-ce que
c'est une rumeur officiellement?
Est-ce que quand on est omniscient et omnipotent, on devient fou? En tout cas, on se fait chier, je pense. Et si on, enfin, vous savez,
alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un programme?
Il n'y a pas d'omnipotence.
Il y a les mythes où le diable, tu fais un pacte avec le diable et le diable te donne ce que tu veux. C'est un mythe hyper ancien. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que en fait,
c'est fausse.
Dans ce mythe, tu donnes ton âme au diable. L'âme, c'est quelque chose de. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, que quand on vous donne sur un plateau ce que vous avez toujours désiré, en fait, vous ne l'avez pas vraiment gagné. C'est là où vous perdez votre âme. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas en profiter, vous ne pouvez pas en jouir. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que il y a une nécessité dans nos existences d'avoir des affrontements, des ennuis et des échecs parce qu'ils font partie de notre tout. Et un bouddhiste vous dirait, tout est nécessaire.
Alors moi, donc la fin de la mort, c'est le pacte du diable ultime, en fait.
Exactement.
Moi, je vais vous dire que je pense exactement le contraire parce qu'en fait, ce qui définit l'omnipotence, c'est le fait que tu sois le seul à avoir tous les pouvoirs. Or,
tout le monde les a.
Ce que je dis là, c'est qu'on est nombreux. On est très nombreux.
C'est un peu comme la postérité de Mélissa, c'est qu'on a une sorte de pouvoir surnaturel que tout le monde a maintenant.
En fait, on est tous Dieu.
En fait, toi,
si tout le monde est Dieu,
tu reviens dans le passé avec une création d'aujourd'hui, un truc banal, genre un briquet, t'es un empereur. Tu vois, si tu reviens à la préhistoire avec un briquet, t'es un empereur, t'allumes du feu quand tu veux, etc. T'as un briquet ici, tu l'allumes dans la rue, tout le monde va faire ouais, cool mec. Tu vois. Derrière les mecs de Charlottesville, ils ont essayé, ils ont tous allumé leur torche, il s'est passé pas grand chose, voilà, tu vois. Voilà, c'est.
Bah, leur vie a été changée quand même. Hein.
Bah, eux, non, enfin, ils sont toujours aussi gommés qu'avant, tu vois. Je pense pas que. Moi, je prends le changement comme quelque chose de positif, tu vois. Si tu changes en mal, en fait, autant ne pas en parler. Et du coup, pour moi...
La bombe nucléaire, il n'y a pas que des mauvais côtés. Hein,
je veux dire. Bah, je suis désolé, mais si
l'énergie
on se parle...
C'était une disruption un peu brutale. Mais
bah, si on se parle, actuellement, c'est en partie parce qu'on a pu faire péter des bombes à droite à gauche pour essayer de dompter l'atome, tu vois. Voilà. Donc à un moment donné, il ne faut pas non plus renier...
75% de notre énergie est nucléaire, et si l'Andra veut nous sponsoriser, on a un slot de libre. Voilà.
Putain, des messages publicitaires dans un podcast gratuit, c'est génial,
Surtout que le board des actionnaires, pas sûr que tout le monde soit d'accord.
J'ai une question pour le bionique Sylvain, là.
Donc là, on revient au côté bio-hipster analogique organique, c'est-à-dire
ce qui définit plutôt bien Sylvain, ma foi.
Alors, j'ai deux problèmes par rapport à cette solution-là. La première, elle est écologique, Daz l'a survolée, mais en fait, la mort est une nécessité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui naissent tout le temps. Et très rapidement, je crois qu'en moins d'un jour, on n'aurait plus de ressources sur la planète si les gens s'arrêtaient de mourir. Donc comment vous avez géré ça? Vous ne faites plus d'enfants?
Tesla, mon gars.
Non, il y a des gens qui ont les moyens.
Ah non, il y a une fracture de la mortalité.
Ah bah,
évidemment.
De toute façon,
c'est Trump qui est immortel et
Peter Thiel qui est immortel. Ce qui va arrêter, comme toute révolution, c'est que les riches vont y accéder en premier, Fibre.
Et
c'est sûr.
Et pareil pour le transhumanisme, hein, ça va créer des inégalités, un marché noir, des trucs de seconde main tout pété et le nec plus ultra de la bionique, quoi.
C'est des ou-sexes que tu me racontes.
Oui, c'est très cyberpunk.
Les voitures ou les téléphones, c'était un truc qui était que pour les privilégiés au début avant que ça atteigne tout le monde.
Les calèches.
Et ma deuxième remarque, imaginez que cette révolution, elle soit arrivée, on va dire, en 1992.
Okay. Imaginez, pour les JO de Barcelone.
Imaginez que Mitterrand, par exemple, il devienne immortel. Est-ce que vous pensez qu'il ne serait pas genre président pour l'éternité ? Parce que je veux dire, le problème de l'immortalité, c'est que les vieux, ils ne veulent pas laisser leur place.
Il y a des élections, Fibre.
Ce fameux débat contre les baby-boomers.
Non, mais c'est vrai, ils ne laisseront jamais leur place. C'est-à-dire qu'on aura Nagui, et... vitam aeternam, Bouteflika, il partira jamais. Tu vois.
Mais du coup, comment se gère des élections, Mélissa, si plus personne ne meurt ? Parce que bon, Jean-Tibéry, bah,
heureusement
fois,
pour perdre une élection, t'as pas besoin de crever quand même.
Bah ouais.
Pour les dictateurs,
je suis sûr que Sarkozy, il a perdu, il est pas mort. Hein.
Non, mais même pour les célébrités. Claire Chazal, elle a quel âge ?
Elle veut
pas
l'âge.
J'en peux plus de Claire Chazal, elle devrait être barrée.
Mais chaque fois que vous voyez
un vieux qui va être à la retraite à la télé, il prend la place d'un jeune brillant. C'est ça le problème.
J'aime quand Fibre, en fait, il s'en fout de notre débat.
Il place ses pions.
Tu le fais ton testament, Fibre. Oui, le capitalisme tue tout. Voilà, c'était mon testament.
J'essaie de vous éduquer un petit peu, bande de nuls, bande de jeunes.
Claire Chazal, ça fait 2 ans qu'elle est plus à l'antenne.
Si, elle est encore là, on n'en peut plus, elle est revenue là.
Elle est sur une des sous-chaînes, je crois.
Elle regarde plus la télé, puis voilà.
Fibre,
si on suit ta logique, tu vas être le premier à dégager de Studio 404.
Mais j'ai pas de problème à partir, à laisser ma place. Moi, j'ai compris parce que j'ai souffert moi-même étant jeune de vieux qui ont été indéboulonnables. Donc, du coup, là, j'ai compris.
Explique-moi à quel moment dans ta vie. Un vieux a été indéboulonnable dans ton parcours de vie.
Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est...
Oui, alors ne rentre pas dans les détails, ne sors pas de
non,
bras des détails non
typiquement,
plus.
Typiquement, allez, j'en parle, Studio 404.
Oui.
C'est une émission qui était au début un pilote pour France Inter.
Qui est dirigé par des vieux,
et ils se sont dit, les jeunes, tutoiement, vous dégagez les jeunes. Voilà. Et bien, voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai.
C'est pas exactement ce qui s'est passé, mais c'est une grille de lecture.
Si on attend.
Mais non, pas du tout. Sommes
sur le sable, les yeux dans l'eau.
Non, mais franchement, tu réécris l'histoire. Donc, toi, c'est
à chaque émission, tu réécris.
Grégory Le Marchal, Grégory Le Marchal.
Je vous donne des nouveaux éclairages, c'est pas de la réécriture.
Bon, alors.
De toute façon, l'Holocauste, ça n'a jamais existé. Bon, c'est juste un nouvel éclairage. Salopard.
Vraie question, comme de Fibre, avant qu'il se barre en vrille. Les quelques premiers mots de Fibre qui étaient des mots sensés. Donc, il y a transhumanisme, surpopulation, poids écologique, surconsommation.
Ouais, ça, c'est sûr.
Est-ce qu'on ne peut pas inventer.
Une double terre.
Non, mais
terre
déjà, de, des gens qui auraient besoin de très peu consommer. Si on avait des organes beaucoup plus performants qui consomment beaucoup moins d'énergie.
Bah, ça s'appelle le tiers monde et ça existe déjà plutôt pas mal.
Non, mais l'efficacité, le fait de ne plus ressentir ni être endommagé par le froid et le très chaud, vivre de
partout. Donc tu peux vivre au climat.
Non, non, il y a une vraie théorie là-dessus pour diminuer un quart de nos ressources, tout simplement. On crée des humains androïdes, comme tu veux, mais de 30 cm de haut.
Oui.
Et donc, du coup, on
se il y a pas de sortie là-dessus.
On met pas le chômage, on met pas le chauffage, on met des pulls aussi. C'est hyper bien.
Non, ça, c'est la solution des vieux, ça.
Mais non, mais il y a un film qui est sorti là-dessus. Il y a une bande-annonce qui est sortie avec Matt Damon.
Ah oui, bah voilà, il va sortir.
La solution à tout, c'est de créer des hommes tout petits. Et Matt Damon est premier et mesure genre 20 cm de haut parce qu'ils disent, bah, ça prend plus de place.
Ça a l'air bien.
Ça consomme rien.
Non, mais ça a l'air marrant,
C'est la suite de Stuart Little, une souris qui parle.
Mais c'est une vraie théorie scientifique. Il y a des calculs.
Il a raison, c'est-à-dire que c'est un service qui est vendu où justement Matt Damon décide, lui, de switcher, de franchir le pas et de vivre avec les petits.
D'ailleurs, nous, aujourd'hui, on est beaucoup moins costauds et gros et on consomme beaucoup moins d'énergie.
Oui.
Oui, bon, Das, t'es resté au school.
Mais... Voilà. Je suis un mec grizzly, tu vois, à l'ancienne.
Mais globalement, par rapport aux hommes du passé, on est plus petit, plus fragile et on consomme. Enfin, on surconsomme par plaisir, mais pas par nécessité. Donc, est-ce qu'on va vers une société de figurines ?
Une société de grosses baltringues ? C'est une question qui reste ouverte.
On pourrait s'arrêter là, dire voilà, pour vaincre la mort, soyons des G.I. Joe.
Non, mais peut-être il suffit de se faire reproduire les gens de petite taille.
C'est le génisme à l'envers.
Tout est tellement mauvais dans cette phrase. Tout est tellement pas bien dans cette phrase.
Non, si, c'est vrai.
C'est pas possible.
Les standards de beauté, c'était plutôt les gens grands et forts ces derniers siècles. Et bah, il suffit de l'inverser la tendance. Si on met les nains à la mode, vous allez voir, on n'aura que des petites gens.
Mais non, parce que les petites gens vivent plus longtemps aussi. Les gens qui sont de plus de petite taille vivent plus longtemps que les gens de grande taille.
La boule, il est pas grand, mais la boule,
tu peux qu'on voit avec Passepartout.
La boule, c'était un nain.
Non,
bon, est-ce qu'on peut revenir au sujet?
Même surtout, c'est un alcoolique avant d'être un nain.
Oui, bah d'accord. Mais...
Tu vois, je pense qu'à un moment.
Attends, la boule, c'était un nain. Ah
non, c'était pas un nain. Non, c'était un gros.
Qui va dans cette émission?
Fais le gong.
Revenons au sujet.
On est mal barré dans le futur. Fibre, comme ça,
Fibre, le futur qu'on a dépeint de toi, où toi t'es même plus full numérique, t'es allé plus loin, t'as perdu ton identité, oui. t'es une poussière d'étoile.
T'es Docteur Manhattan.
Tu es une poussière d'étoile.
Non, c'est-à-dire que même donc, ta conscience, et donc parce que là on parle quand même de quelqu'un qui se raccroche à son corps.
C'est la transcendance.
Mais, même si Daz il a fait le saut complet par rapport à son corps,
moi-même.
Il n'a pas fait le saut complet de son esprit. Ouais. Donc voilà, il n'a pas 100% dissolu son esprit et intégré. Il a un esprit qui est toujours à l'échelle humaine, avec des désirata humains, des joies humaines qui sont de dire « Ah ben je peux être un joueur de basket, pourquoi vouloir être un joueur de basket quand on peut tout être ?» Et donc toi là, effectivement, c'est un clin d'œil dans la chronique, mais c'est un point important, et on va sûrement finir là-dessus. Qu'est-ce qui se passe justement quand on est devenu fibre tigre
et qu'on est partout?
La théorie de la transcendance
là, dit que tu es complètement dissolu dans le cloud.
On a à ce moment-là des désirs et des besoins qui sont aussi incompréhensibles pour nous que nos désirs et nos besoins sont incompréhensibles pour des chiens, par exemple.
D'accord.
Voilà. Okay. Donc il y a un gap de génération.
Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle de Clark ou de Bradbury là-dessus où un humain rencontre un esprit astral, un dieu? Et il n'arrive pas à se comprendre. Je ne sais plus comment ça s'appelle.
Ça arrive parfois.
Non, mais dans Watchmen, tu as le docteur Manhattan qui transcende le espèce humaine.
Qui est sur un autre plan astral.
Et qui nous prend pour des fourmis et des merdes. Et lui, il va s'amuser sur Jupiter, tu vois.
Ouais, il se fait chier sur Jupiter, surtout. Il s'assoit, il se fait chier.
Mais la question, c'est... Enfin, il est loin de toutes nos considérations humaines, en fait.
D'ailleurs, ça me fait penser plus proche de nous à l'intelligence artificielle, aux premières intelligences artificielles dites connues et spectaculaires comme AlphaGo, effectivement, leur manière de penser nous dépasse complètement. En fait.
Oui, mais en fait, encore une fois, c'est dans un cadre qui est très strict.
Oui, mais imaginons qu'on généralise à tout. Non, leur manière d'appréhender la vie ou la mort.
La question, c'est quand on est sur le point de faire le grand saut, on va vous dire, bah voilà, toutes vos espérances, tout ce que vous aimez, tout ce que vous détestez, tout ce qui vous énerve, eh ben, ça va disparaître et vous aurez d'autres espérances qui seront hyper intéressantes.
Est-ce que c'est pas une certaine manière de mourir, en fait? Voilà.
C'est la mort là qui propose. Moi, c'est pas ça que je
propose. La transcendance, c'est ça. Hein,
là, on est entre les deux.
T'es un chien, ton seul truc, c'est jouer, manger, courir après la balle, et tout d'un coup, tu vas abandonner tout ça, et ton problème, ça va être de collectionner des cartes de basket, tu vois. Et effectivement, un chien peut pas le comprendre, et peut-être t'as pas envie de faire le saut, tu vois. T'as envie de courir après une balle.
Et il s'en va. Enfin, il se lèche la bite et s'en va.
Enfin, moi avec mon truc, le chien courrait à l'infini dans une prairie numérique, tu vois.
Oui, mais là, Daz,
tu as des ambitions
bassement humaines, en fait.
Oui, tout à fait. Moi, je veux juste faire de la place.
Donc, en fait, tu te fous de la gueule de Sylvain qui fait pas le grand saut, mais en fait, toi, tu fais pas vraiment le grand saut. Le vrai grand saut, c'est
Fibre.
Mais non, mais personne.
Tu te crées un paradis virtuel.
J'investis un nouveau pan de l'humanité. Ça veut pas dire que je décide de devenir un dieu qui transcende l'âme humaine. J'en ai rien à foutre d'être un dieu qui transcende l'âme humaine.
Mais est-ce que tu vas pas te lasser, comme tous les gens? Imaginons, on dit souvent que les gens qui sont riches et qui ont tout sont dépressifs parce qu'en fait, ils n'ont aucune limite. Une fois que tu auras fait tes millions de matchs en tant que...
Il y aura toujours les interactions sociales, donc il y aura toujours moyen de s'énerver.
Excusez-moi, la dépression est nécessaire? Vous avez pas vu Vice Versa?
Vice Versa de Hemingway ou de Disney?
Vice Versa de Hemingway. Bientôt en salle. Attends, alors Mélissa, regarde, devant toi, tu as une sorte de chronologie de l'homme immortel. Donc on commence par Sylvain.
Regarde comment ça finit quand même.
On commence par Sylvain, donc, qui est un homme de chair et d'os. Non, de...
Encore un petit peu.
Donc de machine et d'os et d'organes synthétiques et de cellules. Voilà.
J'ai un corps physique.
Tu as Daz qui a le même esprit mais qui n'a plus de corps. Et enfin, tu as Fibre qui n'a plus de corps et qui... un esprit qui s'est dissolu dans une sorte d'immense hive mind, une grande ruche, en fait, tout. Peut-être qu'il est heureux, mais on ne sait pas encore.
Est-ce que Fibre Tigre est heureux déjà?
Pour l'instant,
la définition du bonheur est incompréhensible.
Voilà, est-ce que le bonheur est une... Non, c'est vrai.
Il est tellement content dans ce rôle.
Il va sortir que des litotes à la con.
Alors, mais ça, est-ce que tu irais... Jusqu'où tu irais?
Jusqu'où j'irais?
Ouais.
Jusqu'où j'irai?
Est-ce que tu iras à Shenzhen dans mes serveurs?
Tôt ou tard, tu seras à nous.
Est-ce que tu iras? Non, mais moi j'ai l'impression que le truc,
toutes les étapes, non?
Bah, tu te fais toujours chier au moment donné, t'en veux toujours plus, non?
Ouais.
Bon, bref.
Moi je finirai avec Fibre en fait, mais dans longtemps.
Mais tu serais passé quand même par toutes les étapes.
Ouais. C'est-à-dire que j'aurai c'est des phases d'adaptation, parce qu'on est quand même à la base des humains, donc t'as des trucs d'habitude. Après, je pense qu'une fois que t'as passé la dose, vite tu vas à Fibre, tu vois.
Non, je pense qu'il y aurait un verrou quand même pour empêcher que les gens justement fassent des trucs qui sont pas prévus dans le code.
Il y aura un formulaire sur le harcèlement, oui.
Mais ce qu'on sait pas, c'est que peut-être que dans ce futur, ils nous feront, même après notre mort, après notre transfert numérique, ils nous feront bosser quand même. Il faudra continuer à te créer de la valeur pour enrichir.
Pour le capitalisme.
Il faudra même dans ton monde virtuel où tu pourras courir dans des prévisions.
Je vous rappelle qu'il y aura bien quelqu'un qui va devoir gérer tous ces putains de serveurs. Hein. Alors, vous allez tous être dans une grande soupe, un bouillon de langue absolue, là. Mais qui va fournir?
Ce sera Johnny Hive dans le corps de Steve Jobs.
Mais non, mais c'est des machines qui créent d'autres machines, en fait.
Donc des machines bien physiques.
Oui, mais des machines.
Bah, comme les araignées de Matrix, là.
Ouais.
Ouais.
Bon, bah, putain, on vient de réécrire Matrix, c'est nul.
Quand il a inventé le futur, on a écrit un film des années 80.
C'est nul.
Ouais, excusez-moi, mais moi, quand je l'ai vu la première fois, j'étais soufflé.
Bon, on a écrit Matrix et Fibre et l'architecte, du coup.
Exactement.
Oh, j'ai toujours pas compris son rôle.
Exactement ça. Allez, on arrête et on attaque la toute dernière FAQ.
FAQ.
La toute dernière FAQ arrive quand j'arrive à déverrouiller mon iPhone.
La reconnaissance faciale.
Ça va, on rigole. Alors attention, toute dernière FAQ, une question de Meet Pty. Pty, Daz.
Pty.
Pty.
Pty, Michael Jackson. Ah non, c'est Pty.
Pretty putain. Young Thing, ouais,
bon, Pty. Quel film inspiré du numérique voudriez-vous voir dans quel genre? Genre, exemple, un biopic d'Elon Musk, un film catastrophe inspiré par Juicero, un western lift versus Uber.
Le film catastrophe inspiré par Juicero, il me vend du rêve, avec deux tonnes de pression.
J'avoue que le film catastrophe avec The Rock, tu vois, qui essaie d'amender, d'arrêter la pression de Juicero.
Non mais ouais, un truc sur un Kickstarter, mais qui tourne ultra mal et les gens meurent et tout, enfin, tu vois, sur une campagne réussie,
d'accord,
mais avec des effets de bord incontrôlables, en fait, tu vois, vraiment, un train wreck total.
Okay. Ça tourne mal, on l'appellerait.
Ça tourne mal. Ça, ou alors on l'appellerait ça tourne mal, hashtag CTLM.
Des bisous à nos amis de Make My Limonade. Daz, il a son film. Cher petit collègue metteur en scène, est-ce que vous avez une idée de film sur le numérique? Un huis clos, même une sitcom ou une romcom, un truc pseudo non raciste avec Christian Clavier, je ne sais pas.
Est-ce que je peux donner
avec le PDG d'Uber.
Travis Kalanick était un PDG blanc extrêmement privilégié jusqu'au jour où il a rencontré
sa femme de ménage.
Bah, tous ses chauffeurs, surtout le jour où il a rencontré tous ses chauffeurs, et ça lui a ouvert l'esprit. Ils sont tous arabes et musulmans, c'est incroyable. Et voilà. Et c'est Christian Clavier qui joue le rôle de Travis Kalanick. Et c'est Jamel Debbouze qui jouera le rôle de tous les chauffeurs Uber.
Meilleur pitch.
Fibre.
J'ai tellement d'idées à vous proposer, mais...
Je peux te laisser réfléchir.
Non, j'en propose une. Il faut choisir. Toujours dans le Kickstarter, des gens qui montent un Kickstarter pour acheter Monsanto.
Ah, la grande idée de
Chimé. Le mec pousse ses propres projets.
Bah, toujours, évidemment.
Non, mais...
Donc là, on serait plutôt dans la catégorie docu-fiction Netflix. Non,
au lieu de donner 40 euros à la Croix-Rouge, vous donnez 40 euros à ce Kickstarter qui crée une ESA. Et c'est un fonds j'appelle ça un fonds djihadiste, donc un fonds suicide, achètes des parts de sociétés qui sont pas vertueuses,
ouais,
soit pour les faire chier, soit pour les revendre à vil prix, pour les inciter à faire d'autres politiques.
Voilà. Et l'histoire, ce serait un insoumis sur Twitter qui trouverait l'idée géniale, qui mettrait une somme de 40 euros et Monsanto embaucherait un hitman sur le dark web pour aller flinguer ce type qui a rien demandé à personne.
C'est
un thriller.
Je verrais bien Laurent Dutch et Jackie Cario dans le film. Je sais pas pourquoi. Je sais pas dans quel rôle, mais Jackie Cario en tueur. Jackie Cario en tueur du dark web. Bon, Laurent Dutch, je sais pas trop. On le foutrait quelque part. Bon, très bien. Ok. Et comment on appellerait ce film?
Laurent Dutch.
Terreur.com, mais crowdfunding.terreur, tu vois, je sais pas.
D'accord.
Point fier.
Sylvain, Mélissa, est-ce que vous avez une petite idée de film sur le numérique?
Ouais, moi j'ai un slasher.
Un slasher movie.
Où le tueur est un mec complètement flingué, assoiffé de sang, qui s'appelle Peter Thiel.
On vous rappelle que Peter Thiel est un des premiers investisseurs de Facebook, un des co-créateurs de PayPal.
Ouais.
Et un vampire.
Un vampire, puisqu'il boit du sang de jeune, et le seul géant de la Silicon Valley qui a soutenu et qui soutient toujours Donald Trump.
Et qui soutient toujours Donald Trump. C'est un chaotique neutre. Non, mais en fait, je le verrais plus dans un film de super-héros où il s'injecte du sang de jeune. Et en fait, il chope le VIH et il meurt. Quel connard. Et on fait une grande fête, c'est jour férié et tout.
Enfin, ah ouais, cool, bon.
Mais ce serait dans le Marvel Cinematic Universe, mais, ou c'est un, non, mais, un alors, spin-off indépendant.
DC, je pense,
c'est dans le DC, oui.
Ce qui serait incroyable si ça arrivait dans la vraie vie, si Peter Thiel trouverait le VIH, ouais, je pense qu'on trouverait un vaccin assez rapidement.
Putain, c'est ouf.
C'est vrai.
Hein. Ce serait
ça le twist.
Ce serait la technique.
Et là, il guérit.
Ce serait de torcher Peter Thiel en lui injectant du sang contaminé dans toutes ses poches de sang qu'il ubérise avec des jeunes en bonne santé. Et l'obliger à trouver le...
Bah, moi, je ne l'obligerai pas, il irait tout
de suite. Je ne pas le VIH, je injecterai le paludisme qui fait beaucoup plus de morts que le
sang. Très bien, c'est noté. Merci voilà. pour ton apport scénaristique.
TKT.
Je le rajoute.
On vous rappelle que Sergey Brin va lui seul arrêter Parkinson. Parce qu'il avait grand chose d'avoir Parkinson.
Il veut remettre Marty McFly dans un film.
Bill Gates a investi 10 millions de sa propre poche dans la recherche contre Alzheimer également. Ouais. Enfin, c'est des gens qui ont peur de la mort, hein, tout simplement.
Ouais, et qui ont les moyens. Mélissa, est-ce que tu as une idée de film, je ne sais pas, une comédie de trentenaire
Tu veux dire une comédie romantique.
Avec Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri.
Romain Duris. Sur des gens qui créeraient leur propre marque de podcast, par exemple.
Mais non, mais.
Ensemble.
Vous savez, le truc dont je rêve, la réalité augmentée.
Oui.
Bah ça arriverait. Du coup, ça ferait une comédie romantique. Donc genre, ce serait des gens sur un quai de métro où il y aurait des petites fenêtres, des petites bulles au-dessus d'eux.
Ils se chasament.
Et en fait,
Pixar mignon déjà là.
C'est ça. Et ils se parleraient et ça se passerait bien. Et après, ils seraient malheureux et ça se repasserait bien.
Et il y aurait des quiproquos parce qu'ils auraient échangé leurs lunettes sans faire exprès. Et du coup, ils vivraient la vie à travers l'autre.
Ouais.
J'y vais au ciné, j'y vais tout de suite.
Qui serait le... Est-ce qu'à la fin, ils courent jusqu'à l'aéroport pour le rattraper en courant? Mais bon, t'as toutes les indications.
C'est avec une numérisée de Tom Hanks et de Meg Ryan.
Votre amoureuse part dans 7 minutes. Votre amoureuse vient de faire un pas en avant.
Elle arrive à la porte X machin. Tu peux aller la chercher.
Bon, on met qui dans le rôle? Je verrais bien Jeanne Damas dans le rôle de la.
Non,
de
Sophie. La journaliste, moi, qui Sophie Marie Laroui dans La Fille.
Ah ouais, c'est une belle comédie.
Et après.
Raptor dissident dans le rôle du mec.
Je sais pas, un acteur de la. Tu vois, de la scène indé.
Un acteur de la scène indé.
Française.
Indé française.
Baptiste Le Caplin.
Non, trop. Non.
Le gars, il fait que des trucs de parfum maintenant, lui, non?
Ouais, je crois.
Pierre Ninet.
Ah, non. Bah non.
Non, trop connu.
On peut Pierre Ninet, trop
connu. Vincent Lacoste.
Un black.
Ah ouais. Oscar Isaac. Non,
c'est genre un truc. Omar Sy.
Oh, Omar Sy, le voit. C'est le cas de Mera de Rodin. On le voit partout, putain.
C'est décomprendre.
Trop grand public.
Ah. Non, faut que ce soit un peu en arrière. C'est un truc qui ferait Sundance, Mélissa. Donc tu vas pas mettre.
Donc attends, qui est-ce qu'il faudrait, quand même
il faudrait un très vieil acteur sur le comeback, tu vois.
Un Idriss Elba d'Île de France, tu vois. Ouais, un mec.
Idriss Elba, bah c'est
gradure. Gradure.
C'est Omar Sy, Idriss Elba.
Bah tu mets Caris.
Tu mets Caris ou Gradure.
Bah qui est féministe et tout ça en plus, hein, tu vois, c'est important.
Hein. Ouais, pas mal, ouais.
Vous avez pas vu la dernière interview de Caris où il dit qu'il est féministe et il dit bah ouais, les meufs elles sont trop fortes, je défends les meufs, elles déchirent.
Il a raison.
Voilà, et je te dis qu'elle est Caris.
Avant de commencer son morceau par pute.
Mais non, mais ça, c'est la rythmique, il fait du beatbox. Orelsan.
Okay. Non, trop fragile.
Trop blanc.
Non, mais Sophie-Marie Laroui et Caris, ok, moi, personnellement, je paye. Je vais voir ce film.
Je paierais même pour avoir un road movie, je pense. Tu vois. Un petit buddy movie, ils sont attachés par des menottes tous les deux, on sait pas ce qui se passe. Ils se réveillent un lendemain de cuite. Mais le tour a été augmenté. Bon, bah voilà. En tout cas, mon cher Big Pty, tu as ta réponse et c'est la fin de ce Studio 404.
Studio 404, l'émission de société numérique.
Oh, sans mauvaise blague, nous sommes morts. Ha ! Car il est très tard dans la nuit. Nous finissons d'enregistrer ce Studio 404 spécial mort. Nous avons écouté le testament de Fibre Tigre. Que léguer ? À qui ? Comment ? Non. Comment se disputer la fortune, dématérialiser des gens ?
Que léguer nous écoute ?
Voilà. Le capitalisme détruit-il tout ce qui touche ? Voilà, bon bref.
Il crée des paradis pour y mettre des enfers. C'est voilà. Très beau, moi, je trouve ça.
Non, il crée des hits, des chansons, des très belles chansons, des plus belles chansons du monde.
Pour les mettre dans des pubs.
Dans les pubs Red Bull qui tueront tes enfants. Bon, bref. Nous avons ensuite discuté avec Mélissa, qui a rebondi sur notamment la chronique de Fibre, qui, elle, parlait de la postérité, qui est le fantasme de beaucoup de gens, et même tous les hommes pendant très longtemps, de tout temps les hommes, jusqu'au jour où, tout comme la musique, l'écrit, la postérité est devenue accessible à tous, et donc la postérité telle qu'on la connaît n'avait plus de valeur. Comment entrer dans la postérité? Comment être postérisé? Non, ça se dit pas.
Ceci
étant NBA, bref.
Non, c'est un filtre sur un Photoshop, je crois.
C'est vrai. Avec la disruption et le changement, ou, comme disait Fibre, Le machin social.
Le consensus, social. Et Jeanne d'Arc.
Donc, voilà. Donc l'inverse.
Le consensus social et Jeanne d'Arc.
Bon, elle a disrupté Jeanne d'Arc quand même. La coupe au bol, ça c'est...
Légèrement.
Ensuite, et nous avons fini avec une chronique en duo, ça n'arrive pas souvent, mais on l'a fait, une chronique en duo, un dialogue entre Sylvain et Daz. Sylvain qui, maintenant, vivait depuis un bout de temps en humain augmenté et rafistolé dans tous les sens pour tromper la mort et qui hésitait à sauter, à faire le pas pour rejoindre Daz en se dématérialisant totalement et en trompant complètement la mort. La suite va vous étonner. La suite nous a étonnés. C'était donc le 404 qu'on vous avait promis sur la mort. On espère que vous l'aimez. On espère qu'on aura l'occasion de vous en parler, je pense, sur le forum, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter sur la mort et des choses dont on n'a pas pu parler dans l'émission, évidemment. On remercie Ghislain qui était à la réal. Ghislain qui, depuis tout à l'heure, tient ses petites consoles et qui fait des mix comme un accordéoniste, comme ça, là, qui fait des petits trucs. On remercie Quentin et Sam qui sont venus nous voir. On remercie notre petit public secret, on ne donnera pas leur nom, qui était là. Merci à vous tous de nous écouter. Merci aux Patreons que nous avons cités en début d'émission, les nouveaux et les anciens, de nous soutenir tous les jours. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Merci.
N'hésitez pas à partager notre podcast. N'hésitez pas, comme dirait Fibre, à mettre des commentaires 5 étoiles sur iTunes, parce que Fibre est extrêmement vexé.
Ouais.
Parce qu'on n'a pas assez de commentaires 5 étoiles sur iTunes.
Par rapport à d'autres podcasts que je ne citerai pas.
Mais regarde toutes ces étoiles sur notre forum.
Est-ce qu'ils sont détendus et plutôt sur la Côte d'Azur? C'est la question qu'on se pose.
Mais en termes de growth hacking, on en parlait dans l'émission précédente, on n'est pas très fort et Fibre, voilà.
On a un forum hyper actif.
Voilà. Plus sérieusement, venez nous voir sur le forum. On a plein de sujets absolument incroyables et notamment qu'est-ce que vous mettez dans vos sacs à dos.
Si vous êtes en train de faire votre, si vous êtes en train de faire votre testament, pensez à notre Patreon.
Oui.
Bah quoi?
Pensez à vous désinscrire de Patreon, sinon vous allez être
complètement. Non, surtout pas l'inverse, mais autre chose.
Pensez, si vous allez mourir, à ne pas une follower Tigre sur Twitter, puisque vous serez des followers pour l'éternité, ça lui ferait extrêmement plaisir, il serait très content.
Oui, c'est ça.
Allez, bonne écoute, enfin bonne fin d'écoute en tout cas. On se retrouve sur le forum pour discuter de tous ces sujets et ensuite on se retrouvera le mois prochain. Ciao!
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 Bye bye!
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.